Qu'est-ce que c'est que ça?
Bigre, tu savais que le cirque avait débarqué, toi?
Welcome to Ready Rhythm Flying Circus.
Regardez-moi un peu comme ce cirque géant est merveilleux.
Radio Flying Circus from Ocada 2.
Arrêtons-y tout de suite.
Le cirque, le cirque.
What, the circus?
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue. Nous sommes vendredi 12 juin et c'est le quatrième jour de ce festival au quart de tour. Nous sommes en direct de la plaine de la Gloriette et retransmis sur l'ensemble de vos radios Ferrarock préférées. Vendredi 12 juin, ça fait déjà 3 jours de festival, pardon, nous allons entamer le quatrième. Le soleil est avec nous, je crois qu'il va faire chaud aujourd'hui.
Oui, on a très très chaud là sous la tente de la radio, mais on va pas se plaindre, ma foi il fait beau.
Non, on va pas se plaindre, ça, loin de ça, et je pense qu'il va faire même chaud toute la soirée au vu de la programmation assez intense qui s'annonce sur l'ensemble de la Gloriette. On peut se faire un rapide petit aperçu de ce qu'on va voir sous les chapiteaux, mais aussi avoir en interview, puisque je le rappelle, nous sommes en direct donc de 16h à 18h, retransmis sur une partie des radios Ferrarock pour accueillir les artistes qui vont se produire ce soir à Au Quart de Tour, leur poser des questions en interview, discuter un peu avec eux, savoir ce qu'ils attendent de leur concert ce soir, et puis prendre un peu la température, tout simplement. On va retrouver dans quelques instants les Droges qui vont venir nous rejoindre sur ce plateau de quart de tour. C'est toi, Louise, qui va les interviewer.
Tout à fait, on va leur laisser le temps de s'installer quand même.
Bah ouais, quand
on n'est pas des sauvages. Voilà, prenez vos petits casques, vos micros. Et en effet, vous êtes les premiers, bonjour, qu'on reçoit sur le plateau. Je crois que maintenant les micros sont ouverts. On vous prend vraiment à la volée. Bonjour, je crois qu'on vous prend juste avant vos balances en plus de ça.
Ouais, en pleine balance.
Voilà, en pleine, vous aviez déjà commencé.
Non, t'inquiète, on est pénard, pépouze.
Bon bah super, c'est histoire de se descendre un petit peu avant d'aller travailler finalement. Donc Droge, enchanté. Droge, c'est un mélange entre la Drôme et les Vosges.
Exactement.
C'est ça. Ouais. Est-ce que c'est la montagne qui rend de gauche du coup, c'est ça?
Oh, on bah a jamais demandé ça. Ça dépend.
Ça
pour
dépend
la partie Drôme, ouais, c'est peut-être possible, et encore pas que. Mais pour les Vosges, je sais pas, je vais te laisser répondre.
Ah, bâtard. Moi, je suis barré des Vosges à 18 piges avec la 205 et le permis, tu vois.
Ah, moi aussi, ma première voiture, c'était une 205, bref.
Peugeot 205 Junior.
Junior, exactement, ouais. Blanche.
À essence, voilà. Ou diesel?
Diesel.
Ah, essence. Okay.
Incroyable, ces questions.
Pardon, mais celle-là n'était pas préparée, du coup. Comment ces départements, et donc, ces deux départements, et donc vous rencontrez, ça se passe comment, la naissance du projet?
On s'est rencontrés
sur une aire d'autoroute.
Une aire d'autoroute, ouais.
De toute évidence.
Au sandwich triangle, la voilà. Légende dira ça. En fait, à la base, donc Steve et ingé son, moi je suis éclairagiste, et on s'est rencontrés en tournée où on bossait tous les deux pour un artiste. Et en tournée, on a énormément de temps à rien faire en déplacement, enfin beaucoup de temps perdu. Du coup, on a commencé à écrire des morceaux.
Quand tu te tapes 9 heures de route pour faire Lyon vers Saint-Nazaire, faut bien faire des conneries, tu vois.
Oulala. Faut faire connaissance.
Exactement.
Ouais. Et c'est toi qui avais parlé de monter un projet.
Ouais, non, mais on se disait, vas-y, on va commencer à écrire des chansons. Et puis, on a commencé par réécrire le premier morceau, c'était Fils de Bourgecrève. Donc, on a directement commencé par une chanson d'amour.
Oui, c'est ça, bien sûr.
Et c'est la première track qui est née dans le van. On avait commencé à faire des rimes et après on s'est dit vas-y, on essaie de faire de la zik, un de ces quatre. Et puis on s'est capté genre un mois après.
Ouais, bah à un moment où ça se calmait un peu, on avait un peu moins
puis
de
dates. Puis en gros, directement, on a commencé à poser un synthé, une boîte à rythme et puis let's go. Puis directement,
rigoler,
on était là
quoi.
Genre ah ouais, c'est cool la disto sur la voix.
Puis, en Parce qu'on n'assumait pas notre voix, ouais.
Ouais, ça c'est vrai, ouais.
Un peu de pudeur finalement.
Un peu de pudeur, ouais.
C'est ça, et puis après la connerie a déroulé. Puis après, on a sorti plein de tracks. Et puis voilà, c'est cool.
Et ouais, voilà.
C'est assez fou. Puis on est là.
Ouais, super content de vous accueillir. Du coup, vous avez sorti un album, tout ça en crame, en octobre 2025. Ça vous donne tous, là, ceux qui nous écoutent, peut-être, un petit peu le ton hein, des sujets abordés. Pour ne citer que quelques titres, donc Fils de Bourgecrève, vous venez d'en parler. Mode d'emploi pour dégonfler un SUV, jamais proprio, etc. Est-ce qu'on peut dire, je crois ne pas trop m'avancer, que vous êtes un peu antifa, anticapitaliste, globalement militant, engagé? Comment on arrive à trouver un peu son compte quand on fait de la musique, quand on est anticapitaliste?
Comment on trouve son compte
dans cette industrie?
Ah, oula.
Le mot industrie est bien
alors,
choisi.
En vrai, en fait, l'industrie, on la connaît un petit peu en tant que technicien, parce qu'on fait ce métier depuis longtemps. Et du coup, on a essayé, comment dire, on est un peu obligé de se conformer au monde du spectacle. Et on a quand même très vite réussi à détourner les codes et à s'en sortir un peu comme ça. Mais on est obligé à un moment donné de se conformer.
Et de l'autre côté, le problème aussi, c'est que nous, on n'arrive pas à écrire des chansons d'amour. Tu vois. Donc,
exactement.
Peut-être que c'est ça le problème. Il y en a, ils n'arrivent pas à écrire des chansons politiques. Nous, on n'arrive pas à écrire des chansons d'amour.
Ouais, voilà. C'est ça. Ouais. Et finalement, on n'est pas non plus des ovnis. Il y a quand même beaucoup de groupes qui font ça. On est loin d'être les seuls. Ouais.
Vous disiez justement, vous essayez un peu de jouer avec les codes. J'ai évidemment fait un petit tour sur votre compte Instagram qui est,
j'y venais, oui.
Bien sûr, qui est malheureusement, enfin malheureusement, je sais pas, mais un passage un peu obligé quand on essaye un peu de se promouvoir. Et vous, du coup, pour promouvoir votre morceau Mascu ferme ta gueule, qui a été remixé par Yann Tiersen, vous allez m'en parler après. Vous avez fait des espèces de collages, ce qu'on appelle. Donc vous mettez un extrait d'un homme qui dit des choses très masculinistes, lui-même masculiniste. Ouais. Plusieurs d'ailleurs, il y a de la ressource.
Ouais, il y en aura d'autres.
Il y en aura d'autres, j'imagine. Et donc en réponse,
malheureusement, le puits est sans
ouais,
fond.
Malheureusement,
hein,
il y en a énormément. C'était un moment pas cool d'ailleurs de trouver
ouais,
les vidéos,
d'aller faire ces recherches-là.
Ouais. Ouais, ouais.
Et ouais, du coup, déjà, vous êtes en effet assez bon en marketing, je trouve, pour des mecs anti-système. Bravo.
Après, on est un peu obligé, ouais, tu vois, de vendre le projet et tout. Et c'est comme ça que
mais
ça passe.
Ça fonctionne par ailleurs.
Ouais, grave.
Quand on fait de la promo, on est forcément confronté à de l'éthique. Et c'est vrai que ça, c'était la méthode la moins peu éthique qu'on a trouvée pour promouvoir notre musique.
Complètement.
Peut-être qu'on serait pas là, tu vois. On serait pas là au quart de tour, tu vois, si on n'avait pas fait de la com.
Ouais. C'est cet immense festival avec de grosses têtes d'affiches. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir des réponses des mecs dont vous utilisez les extraits vidéo ou pas?
Pas du
tout. Eh ben
non,
ouais, on nous a déjà demandé et non.
Non, il y a juste un moment où j'avais sur Jamais Proprio, tu sais, j'avais fait des vidéos.
Ah oui.
Où il y avait une meuf, en gros c'était un gars qui chopait des gens pour dire est-ce que je peux visiter ton appart à 2006
exact.
Voilà. Et en gros il y a une meuf qui a dit non mais par contre vous avez pas le droit d'utiliser mon image. J'ai dit bon bah ok, on retire, tu vois. Mais vraiment, par contre, on a jamais pris de raid pour l'instant, ouais. De facho ou d'autres choses.
Moi je mets ça sur le compte du fait qu'on est deux mecs.
Oui,
très
aussi,
souvent
ouais,
c'est les artistes meufs qui se font plus facilement
ouais.
attaquer. Mais bon, après, ça nous arrivera probablement à un moment.
On a hâte.
Après, en fait, c'est vrai qu'on est principalement sur Instagram et très vite dans les commentaires, quand il y a des commentaires un peu douteux, des fois il y a des trucs un peu racistes et tout. Très vite, ça s'autogère. Il y a plein de gens qui répondent, donc on a même pas.
Alors ça, c'est assez drôle parce que directement, ouais, ça s'autogère et il se s'autobouffe en fait.
Ouais, ouais, c'est
entre,
ça.
T'en as un qui insulte quelqu'un, l'autre qui insulte l'autre. Puis on est là. Bon, bah écoutez,
voilà. Voilà.
La magie d'Internet, voilà. Ouais. Finalement. Vous parliez justement du fait que peut-être que c'est parce que vous êtes des hommes que ça passe un peu mieux. Ah, c'est ma question un peu touchy. Est-ce que on est légitime de dénoncer le patriarcat et le masculinisme quand on est deux mecs qui font de la musique?
Et ben justement, c'est pas vraiment un morceau féministe qu'on a fait, c'est un morceau anti-masculiniste. Du coup, c'est une réponse de mecs contre des mecs. Et on a fait attention justement de pas porter la parole des femmes, parce que là-dessus, évidemment, on n'est pas légitime, quoi.
Ouais, et à mon humble avis, je trouve ça bien aussi que ce soit une question justement qui soit emparée par des hommes, quand on sait que beaucoup de femmes se fatiguent un peu au quotidien à lutter
sûr,
contre
ouais.
ça.
Ça c'est
aussi,
la partie qui regarde les mecs entre eux, je trouve, et qui pourrait échapper. Dont les femmes pourraient se décharger un petit peu, les femmes militantes en tout cas.
Complètement. Mais de toute façon, je trouve qu'il y a, mine de rien, un peu de nuance dans certains de vos titres. Je pense au titre Starac, qui moi m'a beaucoup touchée parce que je regarde beaucoup la Starac. Voilà, je l'annonce, je l'avoue en direct sur Radio Béton. Je vais me faire bâcher par les vieux bétonneux. Dans ce morceau, vous avez un dialogue entre donc...
Ouais.
Une personne qui critique voilà, ce qu'est la Starac, ce que ça représente aussi, légitimement, hein, critique légitime, et une personne qui lui répond en disant « Ah ouais, mais c'est un peu... Je caricature votre morceau, hein, excusez-moi. »
C'est déjà une caricature.
Voilà. Je dis « Mais en fait, c'est du mépris de classe et tout. » Et du coup, je voulais savoir, in fine, c'est quoi votre point de vue sur le sujet, parce que du coup, on sait pas trop.
Notre point de vue, pour le coup, enfin en tout cas le mien, peut-être qu'on n'est pas tout à fait le même, mais le mien, c'est vraiment ce qu'on dit dans le morceau. On trouve que la Star Academy, c'est nul dans le format compétition musique, mais que les gens qui se moquent des gens qui regardent la Starac font du mépris de classe.
Ouais, tout à fait. Et surtout sur scène, on présente ce morceau en disant qu'on critique les gens qui matent la Starac, mais on critique aussi les gens qui critiquent les gens qui matent la Starac.
Voilà.
C'est
on se comprend un peu là-dedans.
C'est un peu
parce
une mise en abîme.
J'ai beaucoup critiqué la Star Academy, c'est aussi de l'autodérision.
Mais bien sûr, bah, de toute façon, on doit tous beaucoup à balayer devant notre porte. Je pense qu'on est d'accord. Et est-ce que vous pensez, du coup, le public, de, justement, qui regarderait un peu la Starac, c'est un public que vous pouvez toucher et qui pourrait être sensible à ce que vous faites?
J'ai des potes qui regardent la Starac et qui écoutent Droge, donc
bah, comme
je
moi.
Dirais oui. Donc.
Finalement.
En fait, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui regardent la Starac et c'est... Souvent, en fait, c'est d'où le propos du morceau. Souvent, ils se font blâmer, alors qu'au final, c'est pas, on s'en fout. C'est l'industrie qui est nulle. Que les gens le regardent, il y a pas un problème. Ça veut pas dire qu'ils ont pas de goût, qu'ils sont pas ouverts à d'autres styles musicaux.
Carrément. Pareil, toujours sur votre compte Instagram. Encore une fois, le marketing est bon. Vous avez dit que vous envoyez des mails, à des grosses radios ou voilà des grosses plateformes de diffusion en présentant sobrement votre projet, tout en précisant que le premier titre s'appelle Fils de Bourge Crève.
Ouais.
Et apparemment, du coup, vous avez eu des réponses.
Ah carrément, ouais.
C'est comme ça qu'on a.
C'est juste pareil, ce qu'on disait. C'est vu qu'on est technicien depuis genre 10 ans. En gros, on avait déjà un réseau, on connaissait déjà des gens, des tourneurs, des gens de label, des managements et tout, compagnie. Et du coup, en fait, ces gens-là, bah, c'était un peu marrant de leur envoyer ce mail-là parce qu'ils nous connaissaient déjà un peu. Et en fait, eux, ils pensent qu'on est un peu musicien du dimanche au final. Parce que finalement, même nous, là, on fait de la zik, mais on n'a pas l'impression d'être, on va dire, artiste. On est plus technicien dans l'âme. Mais c'est vrai que du coup, c'est comme ça qu'on les a chopés, quoi, directement. Parce que je pense que ces gens-là reçoivent 1000 mails par jour, tu vois.
Du coup, on a fait un mail un peu provoque. Voilà. Et on s'attendait à avoir aucune réponse. Et finalement, et direct, tout le monde nous a répondu. Même pour nous dire non, mais on a eu des réponses.
C'était assez impressionnant, quoi. Donc,
cool. Et c'est ça qui a fait qu'après, on a continué.
Bah, c'est comme ça qu'on a chopé un management. C'est comme ça qu'on a chopé un tourneur. Donc, c'est grâce à ce mail-là, quoi.
Du coup, coucou Estève,
notre tourneur
prend le sommeil.
Bah, voilà, les fameux gens qui ont dit oui, ils existent vraiment, je le vois. Du coup, là, vous partez pour une petite tournée cet été ou?
On a quelques dates cet été. On a beaucoup joué au printemps. Ouais. Et là, ouais, bah, on a quelques dates, une ou deux dates par semaine.
Ouais, puis à l'automne aussi des dates.
Et plutôt à l'automne.
On a des super dates, genre première partie des Vives Assassines à Brest.
Qu'on embrasse très fort.
Ouais, qui sont passés au quart de tour il y a 2 ans.
Ouais.
Voilà.
Yes. Et nous partageons le même booker qui prend le
sommeil. Voilà. Et qui était sous le petit chapiteau qui depuis a été agrandi et je pense que c'est en partie à cause d'elle parce que c'était le gros bordel.
Ah, trop bien.
Et ça, le petit chapiteau débordait et depuis c'est devenu un moyen chapiteau. Voilà. Okay, donc c'était un très bon souvenir d'au quart de tour.
Génial,
en ce qui me concerne.
Ouais.
Et du coup, pardon, excusez-moi, ça m'a perturbé de partir par d'autres souvenirs. Est-ce que pour ce soir, je sais qu'avant Fils de Bourge Crève, vous faites parfois des dédicaces à des fils de peau.
Ah ben on
l'a
fait toujours à la même personne.
Ah voilà,
toujours,
j'allais demander, est-ce que ça s'adapte en fonction
gratuit.
Du lieu?
Non, on maintient le cap, fera une belle dédicace.
Est-ce que vous voulez spoiler ou...
Tu veux que je le dise ou...
À Louis Sarkozy.
Voilà,
c'est beaucoup trop facile.
On l'embrasse toujours, en fait on aime beaucoup commencer le concert en le citant. Et puis direct, enchaîner sur Fils de Bourge Crève.
Voilà. Ça met les gens.
Ça met du baume au cœur.
Ça met les gens dans l'ambiance. Du coup, ça part en tournée. Et vous disiez que vous étiez avant tout technicien. Est-ce que le côté artiste va prendre le pas sur le côté technique? Est-ce que c'est un souhait? Est-ce qu'au contraire, vous n'avez pas envie de grossir à ce point?
Bah, de mon côté, en tout cas, j'ai envie de continuer à faire de la lumière.
Ouais, on continue de faire de la technique.
Beaucoup
moins.
Le but, c'est on priorise la musique.
Bah déjà, on a de la chance d'être, j'ai envie de dire, technicien et de vivre déjà de la zik. Et là, encore plus de chances de faire de la musique et d'avoir des cachets et de vivre de ça. C'est absolument incroyable. Mais on va continuer de faire de la technique à côté. On kiffe faire ça, on kiffe bosser avec des artistes.
Ouais, et puis même en termes d'ouverture d'esprit, je sais pas, des fois ça fait du bien quand on s'est fait des grosses sessions musique
de faire autre chose.
Ça donne un peu d'air frais et voilà. Puis bon, tout est lié. On a des métiers vraiment proches de ce qu'on fait en musique.
Complètement. Ouais. Et du coup, si un jour vous devenez très très riche grâce à votre musique, est-ce qu'on sera obligé de vous cramer ou est-ce que vous allez juste arrêter?
On dit pas de cramer les fils de Bourges, hein, on leur dit de crever.
Ah, c'est différent, pardon.
Nuance.
Autant pour moi.
Grande nuance. Très très bonne question. On ne l'avait jamais posée celle-là.
Vu qu'on fait un projet, on sait qu'on va pas gagner de thunes, mais plus en perdre.
J'ai du mal à imaginer qu'on deviendra riche grâce au projet.
Mais en tout cas, ça nous fait marrer.
Mais brûlez-nous, s'il vous plaît. Ouais.
Et ben pour les brûler, ce sera ce soir au petit chapiteau à 21h50. Je prédis un bon gros bull. Je pense que ça va être top. Merci beaucoup d'avoir
répondu
à nos questions. Et puis on se retrouve tout à l'heure. Et bon courage pour les balances. Du coup.
Ben merci à tout à l'heure.
Merci.
Merci beaucoup Louise. Merci beaucoup Droge de nous avoir accordé cette interview. Et on s'écoute un extrait musical avec le morceau Mascu. Ferme ta gueule.
lié à sa virilité, pas très woke, qui emmerde tout le monde avec ses théories pourries. Toujours chiant quand il parle, c'est gênant. On peut plus rien dire, on peut plus rien faire. Bah ouais, du coup tais-toi, 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 tais-toi. Quand je me réveille, je suis antifa. Et quand je mange, je suis antifa. Je prends la douche, je suis antifa. Je fais mon yoga, je suis antifa. Je fais les travaux, je suis antifa. J'achète des fleurs, je suis antifa. Dans le métro, je suis antifa. Et quand je danse, je suis antifa. Let's go. À la piscine, je suis antifa. À la montagne, je suis antifa. Je promène mon chien, je suis antifa. Je caresse mon chat, je suis antifa. Je paye mes impôts, je suis antifa. J'adore la France, je suis antifa. Quand je vais voter, je suis antifa. T'es antifa, danse avec moi.
Bigre, tu savais que le cirque avait débarqué, toi ?
Et oui, le cirque a débarqué, quatrième jour du festival Au Quart de Tour, 39e édition, en direct des Plaines de la Gloriette et rediffusé sur une partie de vos radios Ferrara Rock préférées. On recevait à l'instant les Droges en interview, magnifiquement menées par Louise. Ils ont l'air très marrants, les Droges.
Ouais, c'était vraiment très cool. C'est le genre de client qu'on aime bien à la radio parce qu'ils sont sympas, ils sont drôles et en même temps, ils répondent sérieusement aux questions qu'on leur pose. Donc franchement, c'est combo gagnant. C'était très cool. Je n'en attendais pas moins. Je n'ai pas été déçu. C'était vraiment très chouette.
Et bah tu vois, ça m'étonne pas des masses qui fassent les premières parties des Vulva Assassins.
Ouais, clairement
et,
pas.
C'est vrai que quand t'as fait le lien avec ce petit chapiteau qui a évolué en moyen chapiteau cette année, et bah pareil, ça m'étonne pas des masses parce que je me dis que quand ils joueront à 21h50 sous le moyen chap, donc ça risque d'être bien, bien, bien la guerre.
Ouais,
c'est complet.
Ça, oui, on est complet d'ailleurs.
Ce soir,
c'est un petit point billette qu'on vous offre.
Aussi, et demain aussi, et on demain est aussi, déjà complet. Complet
ouais, je crois qu'on est déjà. Ah, je crois que c'est foutu en fait pour venir si vous n'avez c'est pas foutu. Pris vos places. Sauf si vous allez sur. Oui, il reste les apérocs d'une part, gratuits, accessibles en ville. Et puis il reste aussi Relax Ticket quand même. Ouais. On n'est pas à l'abri que des gens revendent leurs places, donc n'hésitez pas à vous inscrire si c'est pas déjà fait pour recevoir automatiquement une place dès qu'il y en a une qui se libère. Je vous encourage à le faire parce que là, il faut pas louper ça en fait.
Ouais,
clairement.
Si malheureusement vous n'arrivez pas à avoir de place sur Relax Ticket, vous pourrez quand même écouter les concerts de Quart de Tour en rediffusion.
Oui.
Puisque comme tous les soirs, la majorité des concerts qui seront présents sous les deux chapiteaux. Alors on rediffuse pas Kekeland ni le No Man's Land, le chef de la Smala, mais en tout cas les grands chapiteaux, les chapiteaux principaux, dirons-nous, eh bien vous pourrez écouter tous ces concerts-là sur le 93.6 Radio Béton. Et d'ailleurs, petite nouveauté, hein, cette année, en cours de semaine, Radio Béton a monté une hotline à partir de 2h du matin. Vous pouvez venir faire une dédicace à votre place de quatrième préférée ou venir dire à vos potes de venir vous chercher parce qu'ils vous ont oublié sur le parking en repartant de Quart de Tour. Bref, s'ils écoutent la radio, c'est peut-être le meilleur moyen. Le numéro, je le rappelle et on vous le rappellera, je pense, tout au long de cette soirée, c'est le 07 59 98 26 98. C'est ouvert à partir de 2h du matin, donc vous avez quand même un peu le temps.
Pour l'instant, elle est un peu bancale, cette hotline, elle marche pas toujours, mais elle est toujours très amusante. Quand ça fonctionne, c'est toujours très marrant. Il y a déjà quelques tentatives hier qui ont été d'un grand succès. On a, On a Charles de Béton Prod qui nous a appelé pour nous dire bonne nuit. On était très contents de pouvoir lui souhaiter. C'était vraiment très cool. Alors que les balances commencent, vous les entendez, c'est toujours le moment un peu critique pour nous au plateau radio. Vous nous entendez peut-être mieux que nous, je vous le souhaite.
En plus, on est sur des balances particulièrement vénères puisque la programmation de ce soir, ça va enchaîner beaucoup. Je sais pas qui est en train de balancer là tout de suite maintenant.
C'est
Aurore.
C'est
Aurore.
Ouais.
Très attendu, Aurore.
C'est ça.
Ce qui explique qu'il y a énormément de bruit.
Beaucoup de basses.
Et ce soir, on a quand même un sacré enchaînement. Je sais plus l'ordre exact, mais entre Kalteliebe, Kumo 99 et Aurore, ça va faire mal. Ça va faire très très mal l'enchaînement entre les différents châteaux. Je pense qu'il va y avoir un gauche-droite constant qui va s'effectuer devant le plateau. C'est un peu mon projet à moi, en tout cas. Et j'ai un peu peur de l'état des pogos et des trucs comme ça ce soir.
Ouais, n'hésitez pas à retirer vos lunettes. Voilà, c'est un petit conseil que je vous donne. Parce que Cécile, service civique à Radio Béton, a failli casser les siennes hier devant Dietz, qui était bien énervé aussi. On a bien pogoté.
C'est peut-être moi qui lui ai cassé.
Elles ne sont pas cassées, elles ont failli, mais elle a eu bien peur. Donc si vous avez des amis qui n'aiment pas les pogos, confiez-leur toutes vos affaires et partez libre et léger.
Et on rappelle que si après un de ces pogos, vous vous retrouvez sans chaussures, chaussettes ou téléphone, vous pouvez venir regarder si nous, à la radio, entre les deux chapiteaux, on n'aurait pas récupéré vos objets trouvés, bien sûr. Alors ça a eu du succès hier, les objets trouvés.
Beaucoup de pertes.
C'était franchement bien. Donc voilà, n'hésitez jamais, et puis passez nous voir aussi entre les concerts pour respirer un petit peu, c'est quand même sportif ces événements-là, il faut prendre le temps de respirer, regarder un peu les sublimes animateurs et animatrices de Radio Béton et les différentes radios de la Ferraroc qui sont là pour discuter avec vous pendant toute la soirée, globalement on est là.
On rappelle qu'on est entre les deux chapiteaux et il y a souvent un petit creux, il y a rarement plein de monde à cet endroit-là, c'est pas là, vraiment là que les gens s'assoient ni s'entassent, donc en effet c'est souvent une petite bouffée d'air frais.
Et d'ailleurs, je le rappelle, on a des bouchons d'oreilles, évidemment gratos à disposition à la radio. Je pense que ça va être nécessaire pour ce soir. En tout cas, au vu de ce qu'on a entendu aux balances des différents concerts, n'hésitez pas à venir en prendre. C'est important, protégez vos oreilles si vous voulez continuer d'apprécier les chouettes concerts de Quart de Tour.
En parlant des chouettes concerts, est-ce que vous nous feriez pas un vrai petit point prog? Parce qu'on lance des noms à la volée depuis tout à l'heure, on n'a pas fait un vrai déroulé dans l'ordre de ce qu'on allait écouter.
Très bien. On commencera avec Fierce à 20h. Voilà, de la pop romantique, il est dit sur sur la programmation. Je vous lis carrément les petites descriptions. Allez, on le fait en grande pompe. Il y a de très grandes chances pour que la musique de Fierce soit la chose la plus gracieuse que vous écoutiez sur Au Quart de Tour cette année. Faut se rendre compte, la musique du Bayonnais se déplace au point de rencontre entre pop anglaise méticuleuse, électronica céleste et folk luxuriante. Pas mal.
Ouais, et Fierce qui viendra nous rendre une petite visite en interview durant ce plateau. Je crois que c'est toi, Enora.
Ouais, tout à fait. Un peu hâte de parler avec lui de justement ces mélanges-là. On verra comment on discutera, mais ça peut être intéressant de savoir toutes ses influences, notamment sur la pop anglaise, etc. On verra. On verra de quoi on parlera, mais ça sera super.
Ce sera super, il faudra écouter, bien absolument. Ensuite, on enchaînera avec MAO Cormontreuil à 20h50. La what the fuck pop. Mais what? De la flûte, un beat disco rudimentaire, une voix digne du meilleur de la pop des années 2000, guitare cheesy, synthé 80. Oui, vous pouvez trouver un peu de tout ça dans la musique 100% hallucinante de ce nouveau groupe au nom Désarmant. Pas mal.
Bah ouais, ça fait envie, hein. Mm-hmm. Ça fait envie.
Et on enchaînera aussi avec Droge, du coup, qu'on a eu juste avant l'interview.
Et c'est là où ça part en cacahuète.
Et là, ça part en cacahuète.
Le
cacahuète.
Point de non-retour de cette soirée de Quart de Tour.
Ça m'étonnerait pas d'ailleurs qu'il y ait une partie du public qui ait pris sa place juste pour les voir. Parce que, je sais pas, moi, je les ai vus un peu percés quand même sur les réseaux. J'ai vu pas mal tourner le truc. Peut-être que c'est dans le coin... vers nous à Brest, mais j'ai beaucoup entendu parler d'eux.
Est-ce qu'il y a y a un gros lien entre les Vosges et Brest, c'est à côté
de... Ils ont dit d'ailleurs c'est à Brest qu'ils jouent avec les Vulcanologistes, qui avaient joué là-bas aussi. J'avais été les voir à la Carène il y a, je sais plus, 2 ans, et ça tue. Enfin bon, je pense que ça m'étonnerait pas qu'il y ait une partie du public qui soit vraiment là pour ce style précisément de truc là et qui connaissent pas forcément tous les autres trucs.
Ce style appelé sur le fanzine la révolution.
Voilà.
Révolution, pas mal.
Pas mal.
À 21h50, donc n'oubliez pas cette heure, ça risque de déboîter. Et la description dit purée, c'est ouf. Après un âge d'or, qui avait sacré The Hackers et Miss Kittin, Caretta et autres DJL. L'Electro Clash fait aujourd'hui son grand retour grâce à une paire de punk bien militants, Droge, pour notre plus grand plaisir, en effet. Waouh, les balances se déchaînent.
C'est quand, quand on pense que ça peut pas être pire, il y a toujours un batteur pour nous prouver le contraire.
Big up aux batteurs du monde entier.
On vous aime, mais putain, vous faites trop de bruit.
On a dit que le public d'Ocar risquerait de se déchaîner, de se péter des trucs en faisant des pogos. Il est probable aussi que les mecs d'Aurore se pètent des trucs aussi sur ouais. scène. Parce que j'ai ouï dire qu'ils avaient l'habitude de faire quelques saltos et quelques acrobaties, sachant que cette année, le thème d'Ocar de Tours, c'est
le cirque.
Ils sont dans le thème. Énormément de leur performance scénique.
Et oui.
On n'écouterait pas un petit morceau de musique, dites-moi, avant de retrouver les prochaines interviews. Peut-être un petit morceau d'Aurore, tiens, on en parlait récemment.
Tiens, jouera à 22h50.
Aurore, on va se les garder parce qu'on les reçoit en interview tout à l'heure.
Bah, peut-être enchaîner sur ce qui se passe après, c'est donc Kumo 99.
Non plus. On va les recevoir en interview.
Non plus. Revenons en arrière.
Non, je crois qu'on cherche à mettre un morceau de Caltélib.
Voilà, plus tard, Caltélib qui jouera à 20h50.
Take it, shut 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 débarquer. Regardez-moi un peu comme ce cirque géant est merveilleux.
Toujours en direct du plateau des radios Ferraroc, en direct des balances d'aurore aussi, pour le festival Brocard de Tours, 39e édition. On écoutait à l'instant un morceau de Calton Yebo, Blau Violin, alors que nous ont rejoint durant ce morceau les Kumo 99 qui seront interviewés par Arthur et avec, comme à son habitude à la traduction, notre cher Pablo.
Bonjour, bienvenue sur le plateau.
Hi, and welcome to the show. I hope you will hear what we said with the line check here. Oh, yeah. It's very loud. But welcome, Kuno 99.
Moi, j'ai une première question toute simple. Est-ce que vous êtes énervé?
So the first question is very simple. Are you angry?
Against anything? Contre n'importe quoi?
Oh yeah. What? Yeah.
Hit me.
Yeah. I mean, yeah. What? Oh, sorry. I mean, are you angry? Are you not angry?
I guess that is good. That's a good question.
Yeah. Just straight up, yes.
Donc, oui, la question c'est plutôt genre, est-ce que toi t'es pas énervé, genre contre, enfin, est-ce qu'on peut ne pas être énervé, c'est tout ça.
Vous chantez en japonais. De quoi parlez-vous dans vos textes?
So you sing in Japanese in your songs. What the songs are about? What do you talk about in your songs?
Oh, all kinds of stuff. I guess honestly everything. Just everything that I'm feeling at that moment. We go through
a lot of it's about how beautiful I am, right? Most of it. But that's
most of it's about
some
me.
Of it's about I'll leave that up to you.
No, I mean, it's, you know, it's about like everything, like friendship, love, things that you're going through. I don't know, that's a hard question. That's such a general question. but yeah, about everything, I guess. You can, it's up to interpretation.
Donc ouais, un peu de tout, il y a eu une petite blague, enfin, ça parle d'amour, d'amitié, de ce qu'elle ressent sur le moment où elle écrit la chanson. Il y a aussi eu la petite panne de ça parle de comment aussi son partenaire est magnifique. Mais que c'est assez dur à dire parce que les paroles sont aussi ouvertes à l'interprétation.
Est-ce que c'est important pour toi de chanter en japonais sur une scène internationale puisque voilà vous tournez un petit peu partout? Ou est-ce que c'est aussi dû à des influences peut-être d'autres artistes de musique actuelle japonaise?
So is it important to you to sing in Japanese since now you are touring all around the world? Is it it's something that means something to you, or is it because you are influenced also by other Japanese artists that made you want to sing in Japanese?
I think we started singing in I started singing in Japanese because the cadences and the rhythms in the language was really interesting for me. I think different languages have different cadences and rhythms that you can sing in. This project actually is the first one that I started singing in Japanese in. I don't even know which one my first language is, English or Japanese, but when we started writing, it didn't even occur to me to start writing in English until we started in Japanese until we started this one. And that's been a really interesting journey just to like, I guess it makes you think of why certain sounds and certain rhythms come from certain cultures, because it just, there's like a general rhythm that is in every single language that's just built in.
And melody.
And it comes into different melodies. Yeah, go on.
And melody. And also, I might have guessed because I don't understand.
That's also, honestly, yeah. It makes me be more honest because I know that the person that I'm writing with doesn't understand what I'm saying, as cruel as that sounds.
That's why I answered the last question as such, because I have no idea.
You know, I mean, it's like, it's freeing, really.
Oui, la chose la plus intéressante qu'elle dit pour chanter en japonais, en fait, c'est la cadence des mots, la forme que les syllabes vont prendre et tout, ça a donné un rythme différent parce que chaque langage a un peu son rythme, un peu cette cadence, pour réutiliser ce mot-là. Et aussi, ça influe des fois des mélodies aussi, que tu peux comprendre aussi certaines cultures de pourquoi telle syllabe, telle voyelle a été utilisée à tel moment. Et elle a aussi dit que c'est pour que aussi la personne à qui elle écrit ne comprenne pas ce qu'elle écrit. mais que c'est surtout ça, que pour ce projet-là, elle s'est même pas trop posé la question si elle écrivait en anglais ou en japonais. Le japonais est venu un peu avant que pour ce projet-là, parce que dans ce projet, elle fait en anglais, que c'est ses deux langues maternelles également, mais c'est surtout pour ce côté rythmique, mélodique, que la langue inculque par elle-même, quoi.
Ok, merci beaucoup. Question assez simple, votre projet, comment est-ce qu'il s'est formé à la base, votre groupe?
Can you tell us about the beginning of Kumo 99? How did the project was born?
We were both musicians and we never wrote together for a really long time.
Yeah, we were friends for a long time.
And we just wrote our separate things. I'm a bass player by nature too. You play drums.
I try to play drums. And then
just honestly, one day we'd never planned it. He just started writing.
Started rapping in Japanese while I was making a beat, and then.
And that was literally it. I wish there was a cooler story. It was nothing. I think I was waiting for you in the studio to go to lunch or something. And he started writing a beat, and then I just started writing over it. And that's really it. We just never stopped.
Yeah. Alors, elle a bien aimé que l'histoire soit un peu plus, un peu énorme, quoi, genre un truc un peu cool. Mais en fait, non, juste ils sont amis depuis des années et des années, et ils ont jamais vraiment trop écrit ensemble. Et puis un jour, elle était au studio, elle l'attendait pour aller manger. En fait, lui, il avait fait un beat, une petite prod sur son ordi. Et elle, du coup, elle a juste écrit par-dessus en japonais direct, et depuis, ils n'ont pas arrêté ensemble. Elle a aussi précisé qu'elle faisait de la basse aussi avant en tant que musicienne, et que lui, il faisait un peu de batterie aussi, mais que l'histoire n'est pas folle, mais que c'est comme ça que ça a commencé très naturellement.
C'est quoi la signification de Kumo 99? Kumo 99?
What's the meaning behind the name Kumo 99 or Kumo 99?
There's no meaning.
No,
well, I mean, there is, but there isn't. I mean, like, go on.
We'll go with that because it's too long to explain.
Yeah.
It works backwards and forwards, and then depending on which characters and which language you use, it means different things. And my debit card PIN is in one of the anaglyphs, and so it gets
deep. And our social security number.
Yeah, and I think the prophecy for the end of the world as well, and the beginning of the next one.
Of course.
That's the cloud, yeah. Kumo, cloud 9.
Alors si j'ai bien saisi, c'est que il y a plein de sens, que selon les langages, selon comment tu l'écris, ça peut dire plein de choses différentes, que c'est aussi la fin de les deux derniers chiffres de son code de carte bancaire, je crois, si j'ai bien compris, et que ça peut aussi dire le début du monde, la fin du monde, que ça a plein de significations. Ouais.
Vous avez un tube, c'est Dopamine Chaser. Est-ce que vous êtes plus dopamine ou sérotonine?
Do you have a song, it's called Dopamine Chaser? Are you more a dopamine person or a serotonin person?
Oxytocin. Oxytocin, potassium, and really into peptides. At least I'm getting into it, I'm looking into it. I'm scared of needles, so I can't really partake. Are you familiar with the whole peptide craze in the West Coast?
Yeah, do you like peptides?
I think we don't have it here still.
What's the famous one?
Copper.
No, but like the new one that everyone's. Oh, Ozempic. You heard of that?
No.
That's a peptide.
A GLP-1. It's like a. It's. I don't think it's safe.
Yeah.
Okay. I'm not promoting it. I'm just. I'm researching it. Do your own research.
We're not doctors.
Ouais, si je me trompe pas, c'est plutôt des pilules de type antidouleur, de type voilà. Donc il est plus là-dedans, mais faites vos propres recherches, voilà.
It's a new medicine. Okay, quotes. No.
C'est un nouveau médicament avec des grands guillemets, voilà.
Vous avez un site internet qui est surprenant. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Est-ce que ça permet d'affirmer encore plus votre identité artistique?
So your website is quite surprising. Can you talk a little bit about it? Is it a way to affirm your identity as an artist?
Oh, our website. Our website was designed by Jacob Cooper. He's a really good friend of ours.
Drummer.
He's
all
a drummer.
Drummers are good.
All drummers are good. All rhythm sections are good.
Rhythm section. That includes piano. Including piano.
I think everything that we do, including the website, it's creating a world that we... I don't know.
We just wanted to play with the tools, and that's kind of what reflected in it.
Yeah, we don't really think very hard, or what's the word for it? We don't really like have any deep meanings or try. I think everything should be fun. Everything should just come naturally. I think anyone that tells you that, I don't know, you had to like pull their hair out to like create something is... That's just not for me. It was an idea that we had that we just kind of riffed with it. And Jacob was like, fuck it, let's do it. Okay.
Yep. We said it. We did it. And then I didn't know if he was going to do it. He did it.
Yeah. And then he just did it. Just like everything else that happens with this project.
Yeah. Things are going real fast. I didn't think it would fit on a phone that fast. And
yeah. So that's your answer.
Donc c'est un de leurs amis, Jacob Pumel, si j'ai bien compris le nom, qui a designé le site pour eux. Et puis en fait après il y a plus un truc de, on n'avait pas de réelle envie derrière, ça s'est fait très naturellement. Et qu'en fait après elle décrivait un peu ce truc de quand il y a des personnes qui te disent que pour faire quelque chose de créatif faut vraiment te tirer les cheveux, vraiment s'arracher les cheveux plutôt, de vraiment essayer de manière très dure. Et elle croit pas trop à ça, elle veut s'amuser. On a eu des idées, on a demandé à notre pote, notre pote a dit que c'était possible et tout s'est fait très rapidement en fait, et que faut vraiment voir le côté amusant, créatif et pas non plus chercher à s'arracher les cheveux comme on disait.
En tout cas j'invite beaucoup les auditeurs à aller voir leur site kumo99.com, c'est très cool, c'est une sorte de simulation 3D. Vous avez joué à Wheel of Green à Paris il y a quelques jours et à Coachella l'année dernière, donc des grosses scènes. Et qu'est-ce que vous attendez ce soir d'au quart de tour?
So you played big venues like Wheel of Green in Paris a few days ago, and you also played Coachella. What do you expect from a smaller venue like tonight in au quart de tour?
I have the highest expectations. Yeah. These are always better. Coachella's nice and all.
Yeah, we love Coachella.
Good golf carts.
This is so, it's fun.
Much better.
Yeah, small venues are super fun for us.
I wouldn't consider this small
yeah. Either. This is pretty cool.
Yeah.
You know, we just don't have things like this in the States, so it's we have high expectations.
But I'm convinced they'll be exceeded.
Alors, ils ont des grandes attentes, mais ils savent que ça va être mieux. Et puis forcément les grosses scènes comme Coachella ou Wheel of Green c'est cool, mais les petites c'est encore mieux. Mais bon, ils considèrent pas ça non plus comme petit. Et c'est vrai que quand on remet dans le contexte, 2000 personnes c'est...
c'est quand même beaucoup.
Moi je mettrais pas 2000 personnes dans mon appart, tu vois.
C'est vrai. Et ben merci beaucoup à vous d'avoir répondu à nos questions.
Can I ask a question?
Yes.
What's the Béton, what does that mean?
Béton,
it's the name of the show of the radio that organizes.
We know that, but what does it mean?
Concrete.
Concrete, yes.
Well, I grew up near a bay called Breton, and it's close enough. It's connected to me. Yeah, it sounds good. There's some concrete near it. Yeah. It makes sense. It's all coming together.
Radio concrete.
Yeah. Hell yeah. Well, thank you. Merci.
Have fun tonight.
Yeah, we're very excited and we're looking forward to your show tonight.
Thank you.
Likewise, thank you.
Thank you so much.
Merci beaucoup Kumo 99, merci Arthur, merci Pablo pour cette chouette interview. Effectivement, nous aussi, on attend le live de Kumo 99 ce soir sous le moyen chapiteau à 23h50. Et pour se mettre un peu l'eau à la bouche, on va s'écouter un morceau dont on a parlé durant cette interview. C'est le morceau Dopamine Chaser.
arrête ton cirque tout de suite.
Le cirque, le cirque.
De retour en direct sur ce plateau de la 39e édition du festival Au Quart de Tour 2026 et sa groovée, ce qu'on écoutait à l'instant, c'était les Lost Wonderful Answers avec le morceau Gunter. Ils seront présents en live ce soir sous le chapeau de Keke, parce que oui, on l'a dit hein, plusieurs fois cette semaine, mais il n'y a pas que deux chapiteaux à Au Quart de Tour, il y en a plusieurs, hein. Il y a donc le grand chapeau, le moyen chapeau, mais aussi le chapeau de Keke et le chapeau Nomad Land, le chap de la Smala Collective. Donc ce soir, sous le chap de Keke, Lost Wonderful Answer en live, et je tiens à le préciser, il y a des concerts sous la tente de Keke. Et il y aura également ce soir Polemix en DJ set. On peut faire peut-être un rapide retour sur ce qui est passé sous le chap de Keke hier soir. Vous avez peut-être pu voir les Beach Monsters en live aussi, ainsi que Gilbert Nassal et le mystérieux Mister K en DJ set. Ça a twisté un maximum sous le chap de Keke hier soir, hein. Vraiment, si vous étiez là, alors moi j'ai pas pu voir Beach Monsters, mais en tout cas ce B2B Gilbert Nassal et Mister K, je peux vous dire que les gens twistaient un maximum, ça dansait sur du bon boogaloo rockabilly. J'ai vu des chevilles et des genoux se trémousser sur la piste du danse. Bref, il risque de remettre sa force ce soir. Je ne peux que vous inviter, bien évidemment, à aller y faire un tour, hein, si jamais à un moment vous avez une petite envie de pause. J'ai rapidement évoqué le chap Nomadland. On peut y dire ce qui va se passer ce soir. Vous pourrez y retrouver Big Bones, Maze Echo, Hip Hop Era, Doboul et grosso modo, pour la clôture de ces petits chapiteaux annexes d'Au Quart de Tour qui sont chouettes et qui permettent à celles et ceux qui, si à des moments ont envie de faire des pauses, de pas se retrouver dans des grosses foules, de pouvoir aller écouter du son, profiter, danser tranquillement sur des esthétiques qu'on ne retrouve peut-être pas, en tout cas sous les propositions principales, j'ai envie de dire, de ce grand chapiteau. Je vous rappelle qu'on est en direct d'Au Quart de Tour 2026, 39e édition du festival. Nous sommes sur ce plateau Ferrarock, retransmis sur une majorité des radios Ferrarock, hein, en direct jusqu'à 18h, et ce depuis 16h. Se déroule tout au long de ce plateau des interviews, avec des entretiens avec des artistes qui vont jouer ce soir, hein. C'est vraiment le principe de ce plateau, c'est d'accueillir les groupes avant leur concert, de pouvoir discuter un peu avec eux, faire des entretiens, leur demander ce qu'ils attendent du concert, et puis même discuter de plein d'autres sujets, parce que c'est vrai qu'il y a plein de thématiques à aborder. Il nous reste encore quelques interviews à faire, hein. Aujourd'hui ce plateau n'est pas fini, on espère qu'on pourra voir tout le monde, en tout cas on le souhaite bien bien fort. Oh, je suis rejoint autour de ce plateau par Enora et Pablo. Coucou Enora et Pablo. Et vous avez des interviews, vous, encore de prévues ce soir?
On attend clairement Fierce là, peut-être bientôt. On attend.
Les dernières infos, il faisait pipi.
Ah.
Du coup, je pense que ça devrait pas trop tarder.
Bah, on lui souhaite un bon moment.
Bah oui, si tu nous écoutes, Fierce, profite. Profite très bien.
On a rapidement parlé de Fierce tout à l'heure. C'est lui qui va ouvrir le festival ce soir sous le moyen chap à partir de 20h. Et je crois que vous allez pouvoir en discuter avec lui, puisque je le vois s'approcher de la tente radio. Il va pouvoir s'installer tranquillement. C'est une interview qui sera menée, je vous l'ai dit tout à l'heure, par Enora et Pablo, alors que Fierce s'installe tranquillement. Bonjour. N'hésite pas à mettre un casque, prendre un micro.
Bonjour.
Bonjour Fierce.
Je n'entendais rien du tout.
Il n'y a pas de souci. C'est vrai qu'on le rappelle, on est entre les balances des deux chapiteaux. Du coup, c'est vrai qu'il peut y avoir du bruit, mais normalement, ça devrait aller.
Sans le casque, c'est compliqué.
Sans le casque, c'est compliqué, ouais, je suis d'accord. Et ben, je laisse la parole à Enora et Pablo pour cette interview.
Oui, carrément.
Bonjour,
bonjour, bonjour. Donc, notre invité qui vient d'arriver, Fierce, F-Y-R-S, derrière ce nom de scène, Tristan Gouret, une personne de Saint-Nazaire qui un jour a posé ses valises à Bristol, cette ville anglaise un peu grise, un peu électrique, qui a vu naître bien des projets. Ouais. Et visiblement, Bristol, ça laisse des traces, hein, parce que Fierce est né, t'es revenu avec ce projet, en fait, musical bien à toi, ouais. Une indie pop mélancolique chantée en anglais, quelque part entre la folk et la pop alternative. On pourrait décrire la musique comme un mélange de joie et de tristesse, avec toujours une sensation d'espoir au bout. Donc depuis les débuts des Beaucoup de Chemin, pas mal de dates en 2025, une belle année. Donc sélectionné au Printemps de Bourges il y a quelques années, une date à la Bouloire en 2025, plusieurs salles en Europe centrale notamment, et un Olympia en première partie de Zao de Sagazan. En même temps, en venant de Saint-Nazaire, tout le monde se connaît, on va dire, c'est pas étonnant.
Bref,
ces années pour enfin arriver à Au Quart de Tour. Bienvenue.
Ben, merci beaucoup, je suis très content. C'est ma première à Tours en plus, donc trop content. J'avais des copains à Tours pendant quelques années, je venais de temps en temps et puis j'espérais vraiment venir un jour, donc c'est chose faite maintenant.
Eh bien, bienvenue.
Merci.
Est-ce qu'on peut commencer par la question de base, Tristan, d'où vient ce nom de projet Fears?
En fait, il vient d'une première chanson que j'ai écrite vraiment en 2017-2016. Elle s'appelait Fears, F-E-A-R-S, tout simplement. Et c'était la première chanson et j'y mettais vraiment toutes les premières choses qu'on peut mettre dans une première chanson. Je pense toutes mes émotions, tout ça. Et en fait, je pense que très vite, je me suis dit, bah, en vrai, pourquoi pas garder ce mot-là, peut-être le changer un petit peu, venir apporter un petit truc visuel. Et donc, j'ai changé le E, le A par un Y. Et voilà. Et c'est venu de ça, quoi. Et puis, peut-être aussi d'autres choses. Il y avait un nom de morceau anglais d'un groupe qui s'appelle Glass Animals. Qui avait appelé un album, pas un album, mais un morceau qui s'appelait Weird, E-Y, enfin E-I, pardon, et ils avaient changé avec le Y, justement. Et j'avais trouvé ça hyper cool. Et donc je m'étais dit, bon, bah, je vais faire pareil avec le mot Fears, mais du coup, ça marche pas parce qu'on dit Fires, je crois. Donc voilà, c'est pas grave. J'ai fait une faute d'anglais,
mais
de français.
On le prononce bien Fears pour ton projet.
Ouais, okay, moi je le prononce Fears. Après, bon, si jamais les anglais le disent Fires, je vais pas leur. Je vais pas les reprendre, quoi. C'est ok.
Parce que c'est un vrai mot. Je pensais que tu avais mis un peu Fears en mode pour les peurs, genre F-E-A-R-S. Et ouais. Que du coup, tu avais mis le Y.
Ouais, pour en faire un truc autre, quoi. Ouais, okay. J'aimais bien l'idée que moi, ça me fasse penser au mot comme il était à la base. Mais j'aimais bien justement l'idée que ce soit complètement autre chose. Et bon, voilà. J'aimais l'idée qu'il soit un peu en référence à l'Angleterre et à un mot en anglais. Mais en fait, non, là, ça sonne plus très rock que pop et folk, quoi.
Et c'est ok, puisqu'au final, dans ce deuxième album qui est sorti en 2025, novembre, il me semble, j'ai oublié le nom, Dangerous Beauties,
ouais,
vachement plus rock que le premier. Est-ce qu'on peut parler peut-être de cette musique? Enfin, qu'est-ce que c'est ta musique en ce moment? On est parti de la chanson, un peu pop, et puis un peu plus rock et un peu plus électronique sur le dernier album.
Complètement. Complètement. Bah, c'est des choses qui ont toujours été autour de moi. Je pense que même les premières choses que j'ai pu écouter étaient plutôt rock. Je pense quand même assez mainstream. J'étais pas dans du rock vraiment pur et dur. Je pense que j'ai écouté beaucoup de choses qui étaient très alternatives. Donc ça va plus être un rock alternatif, indie rock. Ça a toujours été par là, mais je pense que je tends à revenir vers ça même dans la suite sur les prochains morceaux. Et à côté de ça, il y a aussi, comme tu viens de le mentionner, la musique électronique. Et ça, c'est quelque chose qui me passionne de plus en plus. Je découvre de par le fait d'être entouré de mes copains producteurs au studio, là où je vis maintenant à Bayonne. Il y a des synthés, il y a toute une manière de penser aussi la musique autour des synthés. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très vite dans le processus de faire un album avec ces garçons-là. Très vite, je me suis penché un peu sur les synthés et donc j'ai essayé d'apporter ce truc-là, à la fois parce que eux allaient m'apprendre lors du processus, mais aussi de mon côté, en achetant aussi des synthés, etc. Donc c'est tout un nouveau monde qui s'ouvre à moi, et en même temps, c'est des choses que j'ai aussi beaucoup écoutées. Et quand on écoute, je pense, à 17-18 ans, beaucoup de musique indie rock, indie pop, c'est dur d'écouter aussi beaucoup de musique électronique. En tout cas, pour moi, c'était pas évident. Mais j'ai eu quelques portes d'entrée qui m'ont permis ensuite d'aller vers Caribou, tous ces artistes-là qui, je trouve, en tout cas, mixent tout ça à la pop aussi et à l'indie, en fait.
Ok, oui, effectivement, on peut pas être fan de tout quand on est jeune. On écoute un peu ce qu'on peut. Et donc t'as parlé beaucoup de choses hyper intéressantes. Est-ce que du coup, on peut parler de ton processus de création?
Ouais.
T'as parlé de personnes. Tu sais que du coup, maintenant, t'es installé à Bayonne.
Ouais, exactement.
Il y a un studio qui s'est créé. Est-ce que tu peux nous parler de ces deux personnes, avec deux ou trois personnes avec qui tu travailles beaucoup?
Ouais, alors ces deux personnes, c'est Johannes Boeuf. Buff, je sais jamais comment on dit son nom, j'ai pas envie de dire de bêtises, Pierre Loustonneau, Petit Fantôme, peut-être que vous connaissez. En fait, c'est le studio de Yonès, il l'a monté il y a maintenant 5-6 ans, je pense, donc le Shorebreaker Studio, qui est basé à côté de Bayonne, qui est dans les Landes, pas très loin de la mer et tout ça, donc c'est une maison. Tout simplement, et il a monté ce studio, et puis petit à petit, il a intégré Pierre, parce que c'était un artiste, musicien, producteur qui était dans le coin, et qui cherchait un endroit aussi où séjourner pour travailler, et donc en fait, Pierre est resté, c'est venu l'année dernière, en fait, dans une discussion, pendant mon deuxième album, je mentionnais l'envie de changer d'air, et de trouver un endroit aussi pour travailler, et pour aller tous les jours... faire des chansons pour moi, pour d'autres, et développer un peu différentes facettes. Et en fait, c'est parti d'une blague, mais en fait, ça s'est concrétisé assez vite. Et donc, voilà. Donc, ces deux garçons-là ont travaillé sur les deux précédents albums. Donc, le dernier qui est sorti, Dangerous Beauties, mais aussi le premier en 2022, je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà, on a travaillé en tout cas jusqu'à présent à trois, Pierre en tant que réal et Johannes en tant que producteur, aussi réal. Et voilà, on avance comme ça.
Ok, et du coup, toi, tu prends quelle place dans le studio ? Tu composes, t'écris,
Ouais.
Donc tu composes pour toi, t'as aussi évoqué d'autres gens ?
Ouais, je commence à écrire pour d'autres artistes aussi. Il y a des trucs que je peux pas forcément dire parce que c'est pas encore officiel, mais voilà, il y a quelques artistes avec qui j'ai pu faire des tests qui se sont concrétisés. J'ai aussi envie de faire de la musique de film, de musique à l'image. Donc c'est des choses que j'ai envie de développer et c'était quelque chose qu'on voulait développer avec ma manageuse qui, elle, est encore à Saint-Nazaire. Il y avait l'envie d'être un peu polyvalent, faire plein de choses. Je pense que ma musique s'y prête aussi. Elle a quelque chose de l'ordre du paysage, de l'image et tout ça. Et c'est quelque chose que moi, j'ai adoré. J'adore quand l'image fit parfaitement avec la musique ou inversement. Et donc ouais, c'est un peu pour ça que je me suis installé là-bas. C'était pour développer tout ça. Et après, voilà, on a quelques projets qui sont en commun. Mais chacun un endroit dans la maison et on fait chacun un peu nos différents trucs, quoi. Et voilà.
Ok, pardon, t'as une question ?
Non, ouais, c'était pour rebondir un peu sur le fait d'écrire pour les autres.
Ouais.
Je sais que t'es dans un projet qui est quand même assez personnel, donc t'écris des chansons qui sont vraiment un peu qui viennent de toi.
Ouais.
Comment ça se passe pour justement transmettre ça à une autre personne quand c'est quelque chose qui est très personnel à la base ? Comment tu te dis cette chanson-là, je la garde pour Fierce, je la garde pour autre chose ? Est-ce que je la donne à quelqu'un ? Enfin, comment ça se passe mentalement ce chemin-là ?
C'est une trop bonne question, mais je pense que moi j'ai eu la chance pour l'instant d'arriver avec des projets où il y avait déjà des démos avec des idées qui étaient déjà bien présentes. Après, c'est vrai que du coup, des fois, moi, je suis dans une période où j'écoute, ou en tout cas, je compose d'une manière pour Fierce avec plein de synthés, etc., des sonorités un peu 80, tout ça. Y a des trucs que j'adore faire. Et puis ensuite, derrière, j'essaie de les réappliquer. Et puis, ça ne fonctionne pas forcément. Donc, il faut un peu venir remettre les curseurs, faire en fonction aussi de l'artiste et s'adapter. Mais je pense qu'en globalité, c'est essayer de vraiment comprendre ce que la personne a envie de faire. Et je pense aussi que la personne vient parce qu'elle aime aussi mon univers et donc d'une certaine manière je m'y retrouve aussi en grande partie. Et donc pour l'instant, en tout cas, j'ai pas eu de situation où vraiment il y a une opposition de style ou autre. Après, moi, c'est un truc que je kiffe faire parce que tu l'as dit, Fierce, c'est très personnel. J'ai l'impression que c'est l'endroit où je peux mettre mon ego aussi. Et ça fait du bien d'avoir des endroits où on met pas d'ego et où en fait on s'adapte et on fait et on essaie juste de faire un peu de la peinture sonore pour quelqu'un. Et c'est un peu plus libre, libre avec moi-même en tout cas. Voilà.
Est-ce que l'anglais t'aide à parler plus facilement de cet ego, ces émotions, de ce côté très intime ? C'est pour ça l'anglais ou c'est autre chose ?
Non, c'est pas forcément pour ça. Je pense que ça s'y prête parce que y a une sonorité, il y a quelque chose que j'aime, que je préfère avec l'anglais que le français. Il y a quelque chose d'un peu plus familier aussi parce que j'ai écouté beaucoup de musique anglaise dans mon enfance et dans mon adolescence. Du coup, pour moi, c'est un peu plus logique d'aller vers cette langue-là que d'aller vers la langue française. Et l'anglais, non, c'est vraiment parce que je kiffe vraiment beaucoup cette langue. Je l'ai parlé, j'essaie de continuer de la parler. C'est comme un muscle, quoi. Il faut continuer à le bosser. Et voilà, c'est plutôt un amour de la langue plus que C'est vrai que souvent les gens disent ça, est-ce que c'est pour se cacher ou autre, et moi j'ai même tendance à dire que ce serait risqué de faire ça, parce qu'en fait on parle à plein de gens, parce que en Europe centrale, que ce soit Allemagne, Belgique, Suisse, n'importe où, en fait il y a un niveau d'anglais aussi parfois qui est un peu supérieur à celui qu'on a en France, et les gens ont beaucoup plus l'habitude de le parler, et donc j'ai l'impression que tu t'ouvres aussi à ces gens-là, et tu te, voilà, t'es un peu plus fragile même presque si tu le fais, donc voilà.
Ok, d'accord. Et pardon, sur les, enfin toujours sur les émotions, désolé.
Ouais.
Mais si on revient sur le sujet d'écrire pour les autres, est-ce que vous aviez discuté? Est-ce que si les personnes te demandent d'écrire en français, du coup, je reste sur ce truc-là, mais c'est un truc qui est pas du tout naturel chez toi, ou en fait, comment tu ça m'intéresse.
Ouais, ce bien sujet sûr.
Comment on travaille pour les autres avec autant d'émotions et tout ça?
En fait, moi, j'écris pas les paroles. Okay. Déjà dans ma musique, j'écris certaines paroles, mais j'écris avec ma partenaire Lucie, qui elle écrit avec moi depuis maintenant, je pense, 1 an et demi, 2 ans. Et donc déjà, ça, c'est une partie qui est importante, parce que quand un artiste en français vient, je peux lui dire quelques trucs, etc., sur du ressenti rythmique, etc. Mais je vais pas toucher, c'est la partie d'auteur, et la plupart du temps, en plus, un artiste en français, en tout cas là, c'est le cas, c'est un peu son dada, c'est son truc, c'est son bébé, donc il a pas forcément envie qu'on y touche. Et non, par contre, moi, j'aime bien essayer de m'adapter sur de la musique en français. Du coup, ça me permet aussi d'aller chercher de la culture que j'ai pas forcément, enfin, tout le bagage que j'ai en anglais, je l'ai pas forcément en français. Donc ça m'aide aussi de, à la fois, aller chercher le bagage, mais ne pas trop aller chercher non plus, parce qu'on, j'ai l'impression qu'on peut vite aller sur de la Reddit, faire des choses qui ont déjà été faites. Et donc, j'aime bien l'idée d'arriver avec mon bagage anglais et d'essayer de l'appliquer aussi parfois sur des choses en français. Et de trouver un truc un peu hybride, quoi. Voilà.
D'accord, ok. Et donc, depuis tout à l'heure, tu parles de références anglaises.
Ouais.
Est-ce que, sans parler peut-être des anciennes, mais en ce moment, tu continues à fouiller un peu cette scène alternative anglaise, du
carrément.
Coup je sais pas, vraiment d'Angleterre ou Royaume-Uni ou
Ouais, ça s'élargit aussi aux États-Unis.
Est-ce que tu as des coups de cœur à nous partager en ce moment, des trucs qui te font vibrer, ou alors que tu as pris une claque ou...
Ouais, carrément. C'est toujours la question où on se dit qu'est-ce que j'écoute. J'ai envie de sortir mon portable et d'aller tout de suite checker ce que j'ai enregistré dernièrement. Mais je me réintéresse beaucoup à une artiste que j'ai loupée à l'époque, je pense, parce que j'étais pas forcément prêt à écouter cette musique-là. Mais Sharon Van Etten, je sais pas si vous connaissez. Grave. Et en fait, pour le coup, elle est américaine, mais j'ai un vrai coup de cœur sur à la fois des vieux albums, mais aussi le dernier. C'est fait et produit par un producteur que j'adore aussi, et qui a produit Bombay Bicycle Club aussi. Donc en fait, bizarrement, ça reste dans le paysage de ce que j'écoute. Mais je pense que, en tout cas, elle m'inspire énormément. Déjà, elle chante extrêmement bien. Elle a une voix incroyable. Et j'aime beaucoup cette... ça sonne pas trop américain. Il y a un truc un peu, c'est très grand paysage, mais en même temps, il y a beaucoup de justesse dans les choix, et je trouve ça vraiment super. Donc ça, c'est vraiment le truc que j'écoute en boucle dernièrement. Et après, ce serait trop dur là. J'étais sorti le premier qui est
non,
venu, mais oh là là, c'est tellement dur.
C'est super, ça
non,
fait
bah,
une
par contre, en Angleterre aussi, il y a beaucoup de nouveaux groupes d'indie rock, punk rock, et il y a des trucs que j'écoute que j'adore aussi. J'ai pas envie de dire des bêtises, mais Cowboy Westside Cowboy, je crois, ou Cowboy Westside, c'est un projet qu'on m'a envoyé, un copain de Bayonne qui m'a envoyé ça, et j'ai trouvé ça vraiment génial. Un groupe de Manchester, du coup. Et après, voilà, il y a énormément de groupes comme Shame, par exemple, que j'adore écouter, et qui sont pas forcément en plus des trucs qui pourraient être liés à ma musique, mais j'adore l'énergie, les guitares, ce côté un peu cold wave aussi parfois dans les guitares, overdrive, reverb, je trouve ça vraiment super.
Ouais, donc on revient à ce qu'on disait au début, de vraiment le projet qui se dirige plus vers le rock au départ. Et
ouais, carrément, un peu plus, complètement.
Des inspirations.
Ouais, les riffs, la guitare électrique. C'est vrai que j'ai commencé folk, et puis petit à petit, je reviens à la guitare électrique. Et voilà, mais il y a même Madison Cunningham que j'adore écouter. C'est aussi pour ça que Madison et Phoebe Bridgers, c'est vraiment les deux qui m'ont fait aller vers une guitare baryton, par exemple. Et je pense que ça m'a aidé à écrire différemment aussi, quoi.
Ok, donc la place de l'instrument choisi, puisque tu as parlé aussi, j'ai oublié le prénom de la personne, mais qui t'a amené vers l'électronique, c'est genre les instruments en fait.
Petit fantôme, petit Pierre. Donc, Pierre, ouais.
Pierre, qui, c'est les instruments en fait qui te nourrissent aussi.
Carrément.
Du coup, là, une guitare baryton, ensuite. Donc c'est vraiment la découverte des instruments qui fait ça.
Complètement, il y a un bagage aussi en fonction des instruments, en fonction des synthés, des différentes marques et des sons différents qui existent. Par exemple, là, j'ai découvert l'Oberheim. Donc le OBX, je crois, donc qui est un classique des années 80, et en fait il y a énormément de sons. En fait, c'est fou comment un synthé, un instrument peut te ramener à tout un bagage des années 80 ou des trucs que tes parents ont pu écouter et tout ça. Et donc ça, je trouve ça génial. Et il y a beaucoup dans mon album, le deuxième, Dangerous Beauties, il y a beaucoup d'Harpodyssée par exemple. Et ça, c'est un synthé que Pierre utilise énormément, qui est dans son studio. Et donc moi, je me suis mis à en chercher ensuite parce que ça faisait partie au final de ma palette presque de couleurs, quoi.
Et du coup, sur scène, il y a ta voix et il y a qui d'autre avec toi ?
Il y a Félix, le frère de Johannes, du coup. ça va être un schmilblick de gens.
On va faire un schéma.
Complètement. Félix, qui a un projet qui s'appelle Rudiger aussi, qui est super. Et donc Félix, lui, il a la batterie. Il a joué sur les deux albums, donc A Big Dream et Dangerous Beauties. Et voilà, en fait, on se connaît maintenant depuis, je dirais, 4 ans et demi. Et c'est quelqu'un que j'adore, et j'étais trop content qu'il soit disponible pour jouer sur cet album, pour jouer sur la tournée aussi. Et donc voilà, on est à deux sur scène, tout simplement, okay. Avec des bandes aussi, etc., parce qu'on peut pas tout jouer. Voilà, les enjeux de l'industrie.
Oui, bien sûr. Ok, je sais pas si on a le temps, j'aimerais bien revenir sur un sujet que tu as évoqué, la musique à l'image.
Ouais.
Donc une envie d'aller vers ça et tout ça.
Ouais.
Et comment là ça prend déjà, enfin quelle place ça prend l'image dans ton projet actuellement au niveau des clips, des artworks peut-être ? Est-ce que tu peux nous parler de comment tu
carrément,
travailles l'image ?
Carrément, c'est trop bien. Je peux mettre en avant enfin les gens avec qui je travaille. Il y a Quentin à l'art, Quentin Latéral, qui est vachement implanté à Nantes. Il fait beaucoup de clips et de clips pour plein d'artistes. Et c'est quelqu'un que j'adore, avec qui je travaille depuis maintenant, je dirais, 2 ans. Et on va sortir, je sors un EP l'année prochaine. Il va encore travailler sur les différents clips. Et c'est trop bien, parce que le visuel, c'est pour moi un truc hyper important. Dès que je commence à composer, j'ai toujours une Instagram ou Pinterest qui est allumée. J'ai besoin d'avoir des images pour parfois aussi juste lâcher un peu entre la musique. Des fois, on rentre dans des phases où c'est un peu tunnel, où tu es tellement concentré sur les différents détails de ce que tu es en train de faire que en fait, tu perds presque juste l'écoute naïve, la première écoute qui est hyper importante en fait. Et donc, j'ai toujours besoin d'avoir soit des réels en boucle, etc., qui me permettent de lâcher et de regarder des trucs que j'aime en plus. Donc c'est souvent des illustrateurs ou des vidéastes qui ont des super concepts et voilà, moi j'ai besoin, ça m'aide en fait il y a toujours un moment où je me dis si la musique fonctionne sur l'image, c'est que peut-être je commence à arriver à la fin du morceau et que la structure fonctionne et que ça marche et que ça pourrait être un clip et que je suis en train de regarder un clip sur YouTube. C'est un peu ma manière de jauger quand est-ce que j'arrive vers la fin aussi du processus, quoi.
Ok. Et du coup, le cadre des Landes, enfin du studio des Landes, doit jouer aussi sur
ouais,
ça.
Ouais, complètement. Il fait très très beau en ce moment. En même temps, il a plu énormément. Il y a 3 mois. Mais non, c'est super. En plus, on a trouvé un appartement avec ma partenaire. On a les Pyrénées en face, donc c'est trop cool. Et puis non, en fait, c'est juste parfait d'être entouré de ses copains qui font de la musique que j'aime et d'avoir aussi d'être challengé aussi, parce qu'en fait, on écoute chacun ce qu'on fait et puis ça donne envie de continuer à faire des choses chouettes et de se surpasser et d'essayer de continuer à avancer. Donc voilà, meilleur choix pour l'instant de ma vie.
Ok, trop cool. Tu parles, enfin vraiment, une année 2025 a été grande, hyper riche
intense.
Pour toi, et tu parles déjà de projets futurs, donc t'es tout là.
Carrément.
T'as encore l'énergie de.
Ah ouais, totalement.
Beaucoup de création.
J'adore ça. Donc, non, c'est pour ça que je le fais, et voilà.
On va peut-être pouvoir s'écouter un morceau du projet, et comme ça, pour que les gens puissent découvrir avant de t'écouter en concert ce soir à 20h.
Absolument, on va pouvoir s'écouter un extrait. On l'a dit, c'est toi qui ouvre le festival ce soir.
La pression.
Content. Non, ça va se passer, les gens vont être cool et je pense que ça va être très joli. On peut s'écouter un extrait, donc je le disais, de Dangerous Beauty, c'est Fears.
Merci beaucoup.
Crushed by the waves, can't find the strength to fight back the power. Caught by the waist, I feel a strong current pulling on the water. Ooh, I feel myself drowning. Ooh, I leave myself to the sea. Into the depth, I'm running out of breath, my body's floating. Pressure on my chest, I'm suffocating. Ooh, I find myself fainting. Ooh, and overseas, the dangerous beauties, the dangerous beauties.
Bigre, tu savais que le cirque avait débarqué, toi ?
Toujours en direct de ce quatrième jour du festival Au Quart de Tour 2026, 39e édition, on poursuit notre plateau et les interviews défilent autour de cette table. On reçoit maintenant Emma Aucor-Montreuil et ce sera Mayotte et Ceci qui vont mener cette interview. Je vous laisse la parole.
Et oui, bonjour déjà, comment ça va ?
Bonjour à tous les deux.
Bah, ça va.
Bonjour.
Super. On sort du camion là, on est un peu groggy.
Oui, c'est vrai que c'est un peu le rush. On vous a chopé pile quand vous êtes arrivés. Mais bon, comme ça, vous commencez en beauté, on va dire. Moi, je voulais commencer par peut-être la question la plus basique de la Terre, qui est de faire un tour des prénoms, parce que j'ai vraiment envie de savoir qui est le M, qui est le A, qui est le O. Puisque pour celles et ceux qui ne le savent pas, Emao Cormontreuil, c'est aussi les initiales de vos prénoms. Et donc, savoir un petit peu votre rôle aussi chacun dans le groupe.
Alors le M, c'est la première lettre de Emma Aucor-Montreuil, c'est mon prénom, c'est Marianne mon prénom.
Et je chante et je joue des percussions électroniques dans ce groupe.
A comme Antonin, et je chante et je joue de la guitare.
Oui. Et en finant en beauté avec le O, donc Odilon, voilà, je suis à la basse.
Donc vous n'êtes pas installé de façon à faire MAO, je suis un peu déçu, dommage, je me disais pas peut-être mais... qu'on aurait droit à cette belle installation.
La DA insupportable au quotidien. Quoi,
oui vraiment, genre, attends je me tourne, je suis juste là moi, c'est à droite, moi c'est à gauche. Bon bref, en tout cas peut-être que pour vous décrire, moi j'aurais parlé d'une sorte de d'électropop hybride, dansante, lumineuse, déjantée aussi. Moi je voulais savoir comment est-ce que vous décrivez votre musique pour des auditeurs qui peut-être ne vous connaîtraient pas encore, peut-être citer vos grandes inspies si vous en avez.
Bah déjà là les adjectifs c'est bien.
Ils marchent bien.
Bah ils marchent bien, moi je valide. Après les inspies, fait tellement longtemps qu'on écoute de la musique, c'est long. Pour ce groupe-là, je pense que c'est, on est entre l'indie rock du début des années 90 et la house et quelques tentations de tech house. voilà, enfin, je sais pas, entre, disons, les Beastie Boys, Fisher, Beck, et je sais pas. Après, je sais pas si ça se ressent vraiment dans notre musique, mais c'est un peu des vibes et un truc un peu positif qu'on essaye de faire dans le groupe, quoi.
Donc, en tout cas,
c'est un peu large.
Oui, vous mélangez beaucoup, c'est quelque chose de très solaire du côté de la pop et aussi plus festif du côté de l'électro. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de mélanger ces deux univers-là? Qu'est-ce qui vous plaît un petit peu dans chacun?
En fait, nous, on vient vraiment de l'indie rock à la base. Donc, en fait, c'est un truc qui est un peu ancré en nous parce qu'on a toujours fait ça. Donc, le côté chanson, structure de chanson, pop, un peu guitare, un peu noise. Enfin, quoi que noise, enfin, pas vraiment. Enfin, il y a des guitares saturées par moment, on va dire. Et après, le côté plus électronique, en fait, ça faisait tellement longtemps qu'on faisait ça dans des groupes avec des batteries et tout qu'à un moment donné, en fait, on a voulu un peu évoluer parce que c'est genre notre 150e groupe et qu'en plus, à chaque fois, on était en mode groupe, du coup, ce qui voulait dire qu'on enregistrait via quelqu'un d'autre, un producteur ou quoi. Et du coup, là, c'est aussi l'idée de faire un peu tout nous-mêmes dans l'ordi. Et donc, l'électrosport est bien pour ça. Voilà. Et d'apprendre de nouvelles techniques de production aussi avec l'électronique.
Revenir à la danse, surtout. Mm-hmm. C'est vrai que c'est le projet dans lequel on met vraiment la danse au centre et la musique, le mouvement. Quoi.
Ouais, parce que dans notre groupe de plus rock, les gens, ils sont plutôt statiques. Enfin, en tout cas, dans ce qu'on faisait, ils étaient plus statiques. Et du coup, ça nous manquait de ne pas avoir
ça
de réaction.
Ça fait du bien, ouais.
Et dans le public, ça danse à fond?
Plutôt. En fait, on commence le set par un morceau hyper grunge et assez down tempo. Et en fait, plus le set avance et plus le BPM monte. Et plus aussi, on va vers des trucs plus dansants. Et aussi, on enchaîne tous les morceaux. Il y a toujours, il y a jamais de blanc dans le set. En fait, on est un peu, encore une fois, à la frontière de l'indie rock et un peu du DJ set dans le sens où ça s'arrête pas entre les morceaux. C'est plutôt des transitions pour aller d'un morceau à l'autre. Voilà.
En tout cas, vous avez parlé un petit peu de vos projets précédents, du fait que c'est pas la première fois que vous travaillez ensemble, vous avez eu d'autres précédentes formations. Est-ce que peut-être on peut revenir un petit peu là-dessus, savoir un petit peu dans quoi vous avez baigné avant de vous lancer dans ce nouveau projet ensemble?
D'ailleurs, on se disait, je crois que ça fait, il y a 14 ans, on est venu à Au Quart de Tour, avec un groupe qui s'appelait Be With Chains.
Oui.
Et donc voilà, ça nous rappelle ce souvenir-là, dans lequel Marianne était.
On était tous les deux
dans ce groupe. Et après, très vite, Odilon, d'ailleurs, parce que Odilon, qui est aussi batteur, a fait des remplacements aussi pour le batteur de Bewitch, qui était devenu papa, enfin bref. Mm-hmm. Et du coup, ça fait bien 15 ans qu'on se connaît. Et après, on a fait plein de projets, d'ailleurs, dont aussi des projets jeunes publics. D'ailleurs, un qui tourne en ce moment, qui s'appelle Oye Oye, qui joue beaucoup depuis 3-4 ans.
Oui, qui est canard. Trois au plateau aussi.
Ouais, qui est vraiment l'inverse de MAO dans le sens où c'est hyper crépusculaire. C'est en mode château hanté, fantôme et squelette et fluo, train fantôme, machin.
Peut-être un mercredi sur Au Quart un jour, le mercredi après-midi, il y a un concert pour les enfants.
À fond.
Oui. Ouais.
Alors, juste, il faut l'obscurité.
Ah. Le chapiteau est fermé.
Ok, parce qu'il y a de la projection vidéo 3D. On est un peu immergé dans une espèce de Castlevania PlayStation et.
Oh là.
Enfin voilà, c'est
Peut-être que vous allez revenir encore une fois à Ocar sous une autre formation, pour un autre projet. En tout cas, peut-être qu'on peut revenir aussi, je le disais tout à l'heure, sur ce nom qui a un double sens. MAO, ça veut aussi dire autre chose, c'est pas que vos initiales. Et puis, Camp Montreuil, c'est un lieu qui vous est cher. Je voulais savoir un petit peu pourquoi ce choix.
Ben déjà, ça a été... En fait, encore une fois, on fait les choses aussi en réaction à ce qu'on a fait avant. Et avant, on avait un groupe qui s'appelait Black Bones, on avait les Bewitchens, on voulait un nom un peu plus français, enfin un peu... disons qu'on voulait vraiment faire presque l'inverse de ce qu'on avait fait avant, donc un truc plus solaire et un nom français. Et un nom français. Et après, tu sais, quand tu cherches des noms, bon, c'est toujours un peu chiant, long et tout. Donc tu cherches tout ce qui est possible et puis tu passes par la phase, oh ben si on met les initiales... les lettres l'une après l'autre, ça fait quoi? Ça fait MAO. Donc ça nous a déjà fait bien marrer parce que la musique qu'on fait, elle reste quand même hyper DIY et du coup, il y a un côté... En plus, le terme MAO, moi, il m'évoque un truc un peu cheap, quoi. Un peu années 2000, un peu tour d'ordi qui fait du bruit, latence. Donc, je sais pas, ça m'évoquait ça et c'est un peu comme ça aussi un peu qu'on fait de la musique.
Ouais. On est parti sur MAO assez rapidement et on a mis du temps à trouver le Camp Montreuil qui arrivait après.
Et le Camp Montreuil, c'est là où en fait c'est juste à côté de Reims, là où on habite, et c'est le lieu où en fait tous nos décors, parce qu'on sur d'autres projets, donc dans le projet du château là il y a des décors et tout, et c'est là qu'on stocke tout, qu'on fait les vidéos, qu'on enregistre. Donc c'est un peu le QG et c'est aussi la zone commerciale un peu en périphérie de Camp Montreuil. Donc il y a ce côté un petit peu MAO Camp Montreuil, petit prestataire de service qui fait
ça fait un peu société de Zac.
Ouais, Camp Montreuil en est une, ouais, c'est ça, ouais. Okay. T'as le Roi Merlin, Buffalo Grill et tout
ouais,
ça. C'est, en fait, c'est vrai que c'est un peu, c'est un peu une ville pas du tout sexy, en fait.
Exactement.
Et c'est ça qui est chouette, c'est qu'Antonin, en plus, via les vidéos, les clips, etc., il fantasme un petit peu ce Camp Montreuil qui pourrait ressembler un petit peu à Hollywood, on va dire. Et,
vidéos.
Hein. Dans les vidéos, uniquement. Et y avait un truc chouette. Il y avait un mood assez cool, voilà, avec le nom, et du coup, c'est vrai que ça a créé plein d'images comme ça.
Ouais, l'idée de revenir dans une réalité qui n'est pas un nom anglais, tout ça, malgré le fait qu'on chante en anglais. Parce que, voilà, mais bon.
Moi, je voulais revenir peut-être aussi sur votre esthétique, sur les clips, tout ce qui va avec l'univers visuel qui va avec votre musique. C'est très coloré, c'est plein de choses différentes. Est-ce que peut-être vous pourrez nous en parler un petit peu plus, savoir pourquoi vous êtes attaché à cette esthétique-là par rapport au projet que vous faites musicalement?
Ben, en fait, ça découle de la musique qu'on fait. Comme on s'est dit, on va faire une musique plutôt festive, solaire. Et ben, forcément, le visuel a plutôt tendance à être clair, coloré et tout ça. Après, c'est vrai que moi, j'ai une fascination pour quand j'étais petit et que, enfin, début des années 90 et tout, et du coup où. C'est une sorte de commande Madeleine de Proust là dans ma tête avec des images de cette période vers 93 et du coup MTV, tout ça, des trucs super fluo colorés et du coup il y a des réminiscences de... Je suis un peu Keblo en fait sur cette période et en fait c'est tout le temps des renouveler un petit peu tout le temps cette atmosphère.
En tout cas, c'est la fête tout autant musicalement que visuellement. Moi, je voulais revenir un petit peu sur la question un peu qu'on peut poser à pas mal d'artistes, qui est-ce que vous êtes plutôt studio, c'est-à-dire à la maison, création, petit comité, etc., ou plutôt scène côté dansant dont vous nous parliez tout à l'heure, le fait de voir le public un petit peu s'enflammer. C'est quoi votre moment préféré de tout ce processus?
Disons que le processus de création, je pense qu'il concerne surtout Antonin. Et Marianne et moi, si je peux me permettre de parler en nom, on serait plus sur la partie live. Après, je pense que tous les deux de notre côté, on fait aussi des choses pour nous sur d'autres projets. Je pense que je dirais que l'un ne va pas sans l'autre. Hein. Voilà, c'est facile comme réponse, mais
évidemment.
C'est vrai. C'est un équilibre. Et c'est vrai que quelque part, si on se retrouve à passer des heures chez soi à composer, il y a une finalité aussi derrière. Et ce serait le live, le fun et la danse. Donc ça se complète plutôt très bien. Et donc je pense qu'on trouve notre bonheur dans les deux cas. Voilà.
En tout cas,
deux facettes.
Niveau fête, on a aussi un peu d'humour, si je peux me permettre, dans certains clips. Je pense à Baby Anne, où il y a de la danse sur un barbecue brûlant entouré de bière sur une plage de Floride. Puis un hélicoptère survolant une course de Monster Truck. Je reprends un petit peu pour celles et ceux qui n'ont pas regardé le clip. Est-ce que c'est important pour vous d'apporter ces touches-là d'humour aussi dans votre travail, que ce soit dans les paroles ou justement dans l'esthétique dont on parlait tout à l'heure?
Ben, en fait, c'est un peu malgré nous. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas du tout, alors là, pas du tout à être drôle.
Bah, c'est réussi.
Non, mais enfin, dans le drôle dans le sens potage, quoi. Enfin, dans le sens, ah, on va faire marrer les gens. On réfléchit plus en termes de fun qu'en termes de, ah, on va faire rigoler. Après, ces images-là, ces idées-là, elles viennent toujours du morceau, essayer de trouver des situations dans les clips où c'est un peu marrant, quoi. Enfin, je parlais des Beastie Boys tout à l'heure. Il y a ce côté un peu qui est marrant, mais en fait qui est pas que marrant, qui est aussi cool. Voilà. Mais ouais.
Mais aussi tu me parlais de Win l'autre jour.
Win, c'est un groupe un peu obscur, mais oui, en fait c'est des groupes qui sont. De toute façon, pour être un groupe, des groupes 100% drôles, c'est un peu douteux, je trouve. Qui sont que sur cette veine-là.
En tout cas, je voulais continuer aussi sur ce même morceau dont on parlait à l'instant du clip, Bébiane. Comme dans Yepa, d'ailleurs, vous alternez les paroles en anglais et en espagnol. Je voulais savoir un peu pourquoi ce choix. D'ailleurs, vous êtes parti sur un nom plutôt français, on en parlait tout à l'heure, mais les paroles sont plus en anglais. On parlait un peu d'hybridation des genres musicaux tout à l'heure, donc ça s'applique même visiblement aux langues, aux paroles, entre anglais, espagnol, etc. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus?
Voilà, on va te faire la réponse de que font tous les groupes qui chantent en anglais et qui sont français. C'est qu'on a écouté ça quand on était
qu'on a eu tout à l'heure d'ailleurs
quand on était au lycée. C'est ça qui a fait notre culture musicale. Bah ouais, mais en fait c'est vrai. Après c'est aussi une question de. En fait, nous on prend la voix d'abord. D'abord comme un instrument. C'est-à-dire que bien entendu, nous c'est pas le texte qui motive le projet. Et après l'espagnol, en fait c'est comme pour l'anglais, c'est-à-dire qu'il y a des, en fait il y a une manière de, en fait c'est comme si tu utilisais un saxo plutôt qu'une trompette, en fait il y a un timbre qui est différent, il y a une manière de poser les mots qui sont différents, voilà.
Et il y a des artistes qui chantent comme ça dans plusieurs langues, je pense, enfin il y a Biga dans le coin, mais qui s'est mis au français mais genre hyper tard. Est-ce qu'il y a aussi ce côté-là d'être à l'aise dans une langue plutôt que l'autre?
Certainement, mais je pense que c'est vraiment dû à la culture musicale qu'on a. On a pas dans ce projet-là, mais j'ai déjà fait des morceaux en français, mais c'est parce qu'en fait ça collait. Enfin, d'ailleurs, c'était plutôt des morceaux genre Gotenner à la Gotenner, tu vois. Donc tu vois, c'est quand même bien particulier.
Mais sans faire marrer, hein.
Non, mais ouais. Allez, tu m'as eu là. Mais tu vois, c'est vraiment pour un type de morceau bien particulier. Si c'est un peu synth-pop 80, ouais, il se peut que le français. Enfin, tu vois, en fait, c'est la musique qui va dicter ce qui sonne le mieux. Et il y a des morceaux, et le peu de morceaux que j'ai fait en français, ils n'auraient pas du tout sonné en anglais. Donc, voilà.
Ouais, c'est vraiment une histoire d'esthétique, quoi.
Exactement.
Puis c'est
exactement.
Même comme des instruments, finalement.
Tout à fait.
Les langues. Justement, je voulais finir, je ne sais pas si on a le temps ou si on a encore le temps, finir sur peut-être la question des instruments, parce qu'il y a notamment une flûte à un moment. Je voulais savoir pourquoi intégrer tout ça, qu'est-ce qui vous a fait partir sur des chemins peut-être plus particuliers, plus uniques, plus différents de ce que vous faites d'habitude?
Bah, en fait, un morceau, il n'y a pas de recette, quoi. Tu démarres comme tu peux. Il se trouve que ce jour-là, c'était ce preset de flûte sur mon vieux clavier. Ça aurait pu être autre chose. En fait, l'idée quand tu composes, c'est d'être surpris par ce que tu fais. Et donc, ça commence à être compliqué depuis le temps que je fais de la musique d'être surpris quand je prends une guitare. Donc, je vais essayer de trouver un autre moyen. Après, ça peut être une ligne de chant. Je sais pas, ça peut être tout en fait. Ça peut
peut-être
être
que. Ça... Pardon.
Non, mais. Ouais.
Peut-être qu'un jour ce sera un didgeridoo, je sais pas.
Ouais, pourquoi pas, je sais pas. J'ai pas ça sous la main, donc je sais pas. Mais pourquoi pas.
Voilà, en tout cas, c'était ma dernière question. On vous remercie pour cette interview, pour avoir répondu un petit peu à nos questions. Et surtout, vous jouerez sous le Grand Chap aujourd'hui, ce soir, donc à 20h50. On a très très hâte de vous voir et de danser avec vous, faire la fête avec vous.
Merci
d'être venu. Merci beaucoup, Emmao Cormontreuil. Merci, Cécilia. Merci, Mayotte. On va s'écouter un petit morceau, hein, quand même, pour se préparer à ce qui va se passer ce soir. Tu nous l'as un peu teasé tout à l'heure. C'est le morceau Baby Anne des Emmao Cormontreuil. On écoutait à l'instant Baby Anne et Emmao Cormontreuil qu'on venait de recevoir sur ce plateau Ferrarock de la 39e édition du festival Au Quart de Tour 2026. Je peux vous dire qu'il est nécessaire de prendre de la crème solaire pour ceux qui vont arriver dès 19h parce que ça cogne sur la plaine de la Gloriette. On est là depuis le début de l'après-midi. Et je vois des peaux commencer à rougir autour de nous.
La tienne notamment.
Préparez-vous la mienne notamment, oui.
Ce matin, il faisait gris et froid quand même. Je tiens à dire, j'ai enlevé mes lunettes de soleil et la crème de mon sac à dos, mais riche idée que ce parasol qui quand même
nous offre un ciel un peu plus ombragé, ça fait du bien.
Comme quoi, la différence de Saint-Étienne, à Tours, le temps peut changer. Pour le mieux.
Ah bah, oui, vous parlez de votre influence océanique, c'est ça?
Tout à fait, oui.
Tout à fait, oui. Nous, on sommes au milieu de montagnes qui autrefois brûlaient d'elles-mêmes, habitées par de vieux forgerons austères qui faisaient des armes. C'est sûr que l'ambiance est un petit peu différente. C'est mais...
ça me donne presque envie d'y aller, là, quand tu le vois comme ça.
Ah bah, hey, ça s'est appelé Armeville, quand même, dis-toi. Oh. Ça n'est pas rien. Et puisqu'on parle de violence...
Ouais, bah, alors,
on vient quand même d'en subir une.
La transition.
On vient quand même d'en subir une. Ouais. Puisqu'il y a moins de 1 minute 30, le groupe Aurore que nous nous flattions, nous étions hyper heureux, Vincent et moi, d'interviewer à Show9Nash09, vient d'annuler l'interview qui devait clore cette émission. Ce qui fait que, quand même, toujours un grand moment de vide.
Bah,
n'est-ce
pas? Et du coup, ils ont juste fait énormément de bruit pendant les balances, quoi.
Ils ont fait des balances très impressionnantes.
C'est leur intervention sur ce plateau.
C'est ça.
Ouais, ils crois qu'on est sur le record de balance de la semaine, hein, je crois.
Ah, c'était fort.
Moi, je suis parti à l'autre bout du fil. Je me suis dit, je vais m'éloigner jusqu'à voir quand ça me dérange plus. Je suis allé à l'entrée du festival, je suis revenu.
Et ça te dérangeait toujours, non?
Alors, c'est super, la musique. Ouais. Mais ça me dérangeait. Physiquement, il y avait un bruit de fou, quoi.
On rappelle aux auditeurices qu'il y a des bouchons d'oreille au stand radio, et que c'est l'occasion de venir nous saluer.
On va peut-être même refaire le plein, pour que le bocal soit
prendre un deuxième
rempli.
Bocal.
Ouais, voilà.
Bon, on s'est dit quand même que on allait vous présenter
ce groupe parce
que qu'on kiffe.
On kiffe bien ce groupe et on a préparé quand même plein de questions. On avait plein de sujets à aborder avec eux et qu'on vous les partage quand même à vous, que vous puissiez avoir une petite idée de ce qui va se passer quand même sous le grand chape ce soir.
Et à la limite, c'est quoi? Et franchement, on se pose les questions et on imagine les réponses. On fait une fausse interview d'Aurore.
Vas-y.
T'es vrai?
Je crois qu'en vrai, je suis un peu calé. Je pense que je peux.
Tu veux répondre?
Je peux répondre à leur place.
Allez, vas-y. On est donc avec Aurore, un groupe de hip-hop et punk de Los Angeles, fondé en 2012. Il réunit Idi et DOGM, les deux têtes pensantes de ce projet. En live, il y a un peu plus de monde autour, comme on va le voir avec toi, Idi OGM. On va parler dans cette interview de cohabitation des cultures, de rock et de hip-hop, de votre dernier album, Tomorrow We Escape, sorti en 2025, et puis toutes ces thématiques d'anxiété, de colère et d'antiracisme qui font un petit peu la griffe et la patte de votre groupe. Alors, Los Angeles, bonjour.
So we are with We9909.
Yeah man, we are so happy to play here at Ocard Tour.
Ocard Tour.
Oubliez de présenter Mayotte à la traduction. Il paraît que vous êtes un petit peu les weirdos du quartier où vous avez grandi, un quartier du côté de Los Angeles, très très peuplé par la culture hip-hop, et que vous avez découvert le rock au fur et à mesure et les musiques très bruyantes, ce qui a provoqué un peu l'incompréhension de votre entourage. Comment est-ce que cohabitent chez vous ces grosses guitares saturées et l'univers du boom-bap et du rap?
So guys, non, en fait, j'étais pas du tout concentré parce que j'étais en train de regarder ce qui se passait là-bas. Désolé.
Oui, bah en fait, c'est vrai que. Est-ce que je peux parler au nom d'Aurore? Est-ce qu'ils vont pas entamer un procès pour diffamation si je parle
en
leur nom?
Non, je pense pas.
Non, je pense pas.
Non.
Mais en tout cas, c'est vrai que oui, on a grandi dans des quartiers où la culture hip-hop est extrêmement présente et où personne n'écoutait de rock. On est quand même. Super content d'avoir pu découvrir cette culture là, cette culture punk, même si effectivement les gens autour de nous ne comprenraient pas trop ce qui se passait.
Alors,
seule question à laquelle je peux répondre en tant qu'Aurore.
C'est parfait. Et en plus, non pas un membre de Aurore qui arrive, mais on a un interviewé surprise spéciale qui. Tu nous sers presque un peu de bouche-trou, Mathieu. Désolé, c'est
j'ai
désolé.
Cru comprendre.
Je suis désolé, mais
j'assume. Mais t'as l'air super. Alors, beau bouche-trou.
Et déjà, il a non seulement il assume, mais il s'était même proposé.
Oui, je crois que vous avez dit si jamais il y a un trou à un moment. Ouais.
Et c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd.
Il y avait la liste des bouche-trous et j'étais dans la liste au cas où si besoin.
T'étais le number one.
Ouais, t'étais le number one.
On t'a appelé desktop.
Waouh.
Non, Mathieu qui est avec nous, qui gère le stand d'Ultimate League sur la plaine de la Gloriette. Et du coup, trop cool parce que nous là, on s'apprêtait à meubler un peu pendant 15 minutes, mais peut-être que tu vas le faire mieux que nous avec des trucs plus intéressants à dire, donc c'est trop bien. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que c'est Ultimate League, ce que tu fais ici à Ocar, enfin quitter, enfin présente-toi quoi.
Ok, et Ultimate League, c'est surtout l'histoire, il y a une dizaine d'années, d'un groupe de potes. qui s'était dit tiens, on aimerait bien jouer aux jeux vidéo, notamment aux jeux FIFA à l'époque, et on avait un peu marre du jeu en ligne, d'internet, etc. Et on s'est dit tiens, on devrait retrouver un peu le délire des années 90-2000 où on se retrouvait ados sur un canap à taper la play. Donc on a inventé un championnat un peu comme la Ligue 1, un peu comme la Serie A, etc. Et on a commencé à 7 et on est monté jusqu'à 34.
Ah ouais.
On a fait ça pendant 8 ans. Et au bout d'un moment, moi, je me suis dit, après avoir été 2 ans dans une asso de jeux vidéo, je me suis dit, tiens, pourquoi on ne montrait pas quelque chose qui permette voilà, de faire du jeu vidéo en présentiel, mais pas que sur FIFA, aussi sur plein d'autres jeux différents, etc. Et on a monté Ultimate League, qui est une micro-entreprise qui permet de faire des événements jeux vidéo et jeux de société dans plein d'endroits à Tours. Et l'idée, c'est de créer du lien social autour du jeu. Par contre, voilà, on a 2-3 critères importants, pas d'internet notamment, même si on sait que c'est à l'ordre du jour, nous on n'est pas sur ce créneau-là, il y en a qui le font mieux que nous. Donc l'idée, voilà, c'est vraiment se rencontrer, échanger et jouer ensemble.
Donc on peut faire des LAN au quart de tour là.
Alors là, on peut pas faire de LAN. Par contre, on a des, on
elle
a un
nerd,
jeu par soir.
Moi, je sais pas ce que c'est un LAN.
Mais j'allais dire, préciser ce que c'est une LAN. Pour les gens qui ne savent pas.
Une LAN, c'est un truc qui est né à un moment un peu charnière d'internet où il y avait pas encore de, des grosses connexions et tout, et du coup, il y avait des jeux qu'on pouvait jouer en multijoueur,
mais au même endroit.
Mais sur PC, ça voulait dire qu'il fallait prendre un week-end où les parents étaient partis. Squatter leur salon, leur table, le jardin,
le
sous-sol, le garage, remplir la maison de PC et de copains, tout brancher, ça marche pas.
Sachant qu'à l'époque, ça prenait beaucoup de place, les ordinateurs.
Et à peu près, si tu prévoyais un week-end de 2 jours, bon bah le premier jour c'était technique.
C'était de l'install.
Et le deuxième jour, on jouait 4-5 heures, quoi. Après, fallait tout débrancher, mais la LAN, c'est ça, c'est tu réunis plein de PC et tout le monde joue ensemble.
Après, il y avait les cybercafés. Moi, j'ai connu ça, tu vois, nous, on n'avait pas trop les maisons et tout, on vivait au quartier HLM, on courait en centre-ville, on allait mettre 2 euros de l'heure à l'époque et on se tapait des LAN au cybercafé. On avait la chance d'avoir un mec qui techniquement pouvait nous aider quand ça plantait, ouais.
Counter-Strike et compagnie à l'époque.
Exactement, ouais. C'était assez cool.
Moi j'ai une question intéressée, est-ce que tu fais des tournois de Mario Kart pendant la semaine?
Non, on a décidé cette semaine d'aller un peu sur d'autres terrains de jeu.
Je viendrai pas.
Ouais, je sais bien. Non, d'habitude voilà, on est sur Mario Kart, FIFA et tout, là on s'est dit on va aller sur du versus fighting. On voulait aller sur du versus fighting rétro, donc Street Fighter 2, la soir c'est Tekken 3.
Oh, c'est mon soir.
On voulait faire Soul Calibur, etc. On a juste placé vite fait un PES 5 sur PS2 pour l'ouverture de la Coupe du Monde hier. On s'est permis une petite discrétion. Mais en tout cas, voilà, toute la semaine, c'est du fighting. Et ce soir, c'était Ken 3. On finit par Smash Bros sur Switch, histoire aussi de faire kiffer la communauté Smash, mais aussi les nouvelles générations qui ont envie de faire un peu autre chose que du rétro gaming. Et on fait gagner des petits cadeaux à chaque soir, notamment demain soir, on fait gagner une manette de Switch. Donc histoire de mettre un petit enjeu.
C'est à quelle heure le tournoi?
Alors demain sera de 16h à 21h, je crois, vu qu'on ouvre plus tôt, il me semble.
Oui, tout à fait. Demain, on ouvre à 16h, on le rappellera.
Car il y a du gros dub.
Oui, voilà, c'est le moment favori de Mayotte de la semaine.
Ouais.
Ouais, je lui ai vraiment envoyé une comme balle ça, qu'il n'a pas pu réceptionner, finalement.
Car il n'a que des moments favoris.
Elle a fait...
Elle est tombée comme un soufflé. Est-ce que vous êtes placé où sur le site pour que nos auditeurs qui seront sur place puissent vous retrouver?
Quand vous arrivez sur le parc de la Gloriette, il y a le grand panneau avec Cocard de Tours. À ce moment-là, on est juste à droite. On est l'un des premiers stands. On est à côté de la team 3x3, l'assaut 3x3. Ouais.
Juste voilà, en face du bar à bière, dans le coin, vers chez Kéké, à peu près.
Exactement. Et du coup, juste précision, on prête aussi des jeux de société. En gros, l'idée, tu nous passes une carte d'identité et tu peux prendre un jeu de société, te barrer dans tout le festival, jouer avec tes potes, si ce qui prend, Sky Joe, j'en sais rien, plein de jeux. Et quand on a marre, tu nous rends le jeu et nous, on te rend ta pièce d'identité, c'est gratos.
Moi, j'ai une petite question. Parce que déjà, il y a 2 chapiteaux où les concerts ils s'alternent en permanence. Il y a 2 autres tentes où déjà, c'est pas facile d'aller voir les autres concerts de rap et de techno en bas là-bas ou du Aïché Kekeland, etc. Combien il y a de personnes et c'est qui les gens qui viennent se poser pour en plus trouver le temps de faire des jeux chez vous? Il y a un truc que je piche pas moi dans ce festival. Il y a trop de choses en même temps.
Il y a énormément de choses. Ouais, non, en fait, c'est souvent que les gens ils passent devant le stand et ça leur rappelle un souvenir. Madeleine de Proust, ils se disent oh putain, Street Fighter 2, j'ai joué à ça il y a 20 ans. Par exemple, on a eu un père avec son gamin qui sont venus jouer à Street Fighter 2. On a d'autres gens, tu vois là, ils gardent PES5, ça leur rappelle des souvenirs en fait, des moments chez les grands-parents l'été, des cousinades, des moments où ils jouaient avec leurs frères et sœurs. C'est ça aussi qu'on voulait toucher là au car. On a choisi ces jeux-là parce qu'on voulait un peu réveiller des souvenirs intergénérationnels.
Ouais, bah puis En fait, à Ocar, il y a quand même un truc comme ça où des fois, je parlais hier avec un pote, il a vu la maillotche le mardi, et il m'a dit, moi, le mardi, j'ai pas dépassé la maillotche, en fait. C'est-à-dire, il est allé à la maillotche, il a trouvé ça hyper marrant, ça lui a fait sa soirée, il a vu un demi-concert au chapiteau La Smala, et il est reparti, et le lendemain, il a regardé tous les concerts, mais...
La maillotche, c'est Toto Black, un collectif nantais, du coup, qui mélange des espèces de vieux jeux de foire, une maillotche avec une grosse masse et un concert de garage rock bien rugueux. Moi, j'ai vu hier à grands coups de Niol, c'est vrai que c'est une très bonne ambiance là-bas.
Ouais, si vous avez l'habitude de fendre du bois, allez à la maillotche, vous allez boire de la prune à 1€ le shooter.
C'est un autre rétro gaming est possible.
Ouais, ah ouais, c'est un très très rétro gaming, ouais.
Et vite fait, pour répondre aussi à ta question, est-ce qu'il y avait du monde ? On a du monde tout le temps, par contre c'est pas bondé et c'est cool aussi pour nous parce que ça nous permet d'échanger avec les joueurs sur des souvenirs, sur plein de choses. Mais en effet, y a tellement de choses sur ce festival proposé qu'on avait aussi conscience qu'il n'y aurait pas énormément foule, mais c'est pas forcément ça qu'on cherche, c'était plus l'idée de proposer quelque chose quoi.
Ouais, puis y a aussi que c'est la première fois.
Ouais, tout à fait.
Donc du coup, petit à petit, les gens ils vont prendre l'habitude et je pense que, je sais pas, dans 10 ans, il y a des mecs qui diront « Ah, vas-y, on va voir ce qu'ils ont comme jeu cette année, ça va être charmé. »
Il va y avoir une convention en plus avec un cinquième chapiteau, histoire qu'il y a encore plus de choses, ouais.
C'est possible.
Ça va devenir un festival gaming.
Ce sera la Bilan, ce sera la Bétonlan, quoi.
Et on avait un peu peur, nous aussi, on s'est dit « Est-ce que ça a du sens de venir ici ?» Est-ce que... Et en fait, oui, parce qu'il y a aussi un côté... un peu de tout le monde peut kiffer, tout le monde peut jouer, on n'est pas dans un délire très compète, on cherche pas des gens qui sont forts. Moi souvent d'ailleurs on me demande ah tu sais trop bien jouer à tel jeu, non moi je sais pas jouer, vite fait à Mario Kart, Louise peut confirmer vite fait, et un peu FIFA,
je suis meilleur que toi, mais...
oui voilà, je perds tout le temps.
La boss de Mario Kart de tour, on peut le dire.
La reine. Et, mais ouais voilà l'idée c'est pour ça que ça collait bien avec Ocarotti, c'était viens comme t'es, kiffe et vas-y expérimente quoi.
Ouais. Alors moi je le dis aussi parce qu'il est modeste et mignon et humble Mathieu, mais c'est trop cool parce qu'il cherche aussi à faire du lien avec les assos, les orgas du coin. Nous il nous a contacté dès qu'il a pu pour radiophoniser des tournois de jeux vidéo et c'est des grosses barres de rire qu'on a pris quand même cette année à commenter des mecs qui jouent à Mario Kart. Et en fait c'est plus radiophonique que ça en a l'air comme ça sur le papier.
Oui, des fois ça ne l'est pas non plus, mais c'est
alors,
rigolo quand même.
Moi j'ai réécouté la pige du tournoi de Mario Kart.
Qu'on avait fait au Beaumont.
Ouais, et c'est vraiment hyper marrant à écouter. Hein. Il n'y a pas de temps mort, c'est très drôle à écouter alors que tu vois pas les mecs jouer à Mario Kart. Mais...
L'équipe Radio Béton est arrivée deuxième, à
c'était
mon grand désespoir.
Dingo, ça. C'était ouais. Assez dingo, il y avait égalité, je me souviens 146 points pour les deux équipes, ouais. Improbable.
La mémoire de taré quoi.
Et lui, ouais, bah, wow. Et je me souviens...
Louise a perdu ses moyens sur la dernière
course. Ouais, c'était la grande finale quoi.
Si mon équipe avait été en amont plus performante...
Non, c'était un super souvenir et pour rebondir sur ce que tu dis, oui c'est vrai qu'il y a ce plaisir de partager avec les assos, de partager avec tous les univers différents et aussi nous ça nous enrichit beaucoup. On s'inspire de ce qui est fait ailleurs. Il y a même plein de choses qu'on fait. On s'inspire de Radio Béton, etc. C'est ça aussi qui nous lie les uns les autres. Là, c'est le partage.
Oui, j'allais dire inversement. Je pense qu'à Ocar, il y a une envie aussi de mettre en avant des assos, des collectifs, des micro-entreprises locales aussi pour les mettre un peu en avant. Aux yeux. Parce qu'il y a des gens qui viennent à Ocar qui ne sont pas toujours familiers avec Radio Béton, avec tout ce qui gravite autour. Et c'est aussi l'occasion de vous découvrir pour ceux et celles qui ne vous connaissent pas forcément, finalement.
Du coup, on engage les auditeurs à aller vous voir plutôt qu'aller voir Aurore ce soir. C'est un peu évident.
En tout cas, le manager d'Aurore. Et...
Est-ce qu'on peut prendre un Monopoly et aller en faire une partie pendant le concert d'Aurore, au milieu du beat?
Il risque de parvenir en très bon état.
En tout cas, à défaut de les avoir sur ce plateau, on va s'écouter. On va se quitter d'ailleurs avec un dernier morceau d'Aurore. Merci à tous les artistes, merci à toutes les personnes des différentes radios Ferrarock de nous avoir permis de réaliser ce beau plateau et ces belles interviews. Nous, on se quitte là-dessus pour les radios Ferrarock. Pour les auditeurs de Radio Béton, vous serez bien évidemment redirigés vers les apérocs, puis après vers la rediffusion des différents concerts.
On n'a pas fini de vous saouler.
Eh non.
Merci Vincent.
On vous souhaite une très bonne quatrième. Quatrième soirée d'Ocar de Tour, on se quitte avec Incline d'Aurore.
Des bisous.
Bisous.
Salut.
money make the world go round. Keep your mouth shut, no sound. Please don't tell me you bound. When it all crash, you bounce. 20 feet tall, keep count. And we're just gon' keep drowning. Feet don't touch the ground. And I keep running like prom. And now we finally lie. Pockets finally lie. But I'm leaving, yeah.
You better watch your mouth. You gon' fuck around and find out.
You don't wanna know what we had to do. 999.